Bonsoir, on va donc commencer cette soirée puisque normalement on doit libérer la salle à 22h30. Donc si on veut avoir le temps de débattre, on va rapidement donner la parole aux conférenciers. Donc le thème de ce soir, c'est le prix du médicament. Alors ce n'est pas un sujet anecdotique, le prix du médicament, puisque le prix du médicament, ça représente, enfin le prix des médicaments en général, ça représente 19,3% de la consommation des soins et des biens médicaux. Et cette entité, la consommation des soins et des biens médicaux, ça représente 34,7 milliards d'euros, soit un peu plus de 9% du produit intérieur brut. Une autre manière de dire les choses, c'est que le prix des médicaments consommés en France représente un peu moins de 2% du produit intérieur brut. Donc c'est quand même un enjeu politique non négligeable. D'autant que si on rapporte les chiffres au déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale en 2012, hein, ce déficit il était de 5,9 milliards. Donc on a quand même certainement des marges de manœuvre qui, si elles étaient utilisées, pourraient sans doute permettre de voir les enjeux financiers de la couverture sociale d'une façon différente. Donc ce soir, nous avons deux intervenants pour introduire le débat sur ces questions. Donc Daniel Chevalier, qui est pharmacien à Poitiers, et qui va nous présenter le cadre réglementaire et législatif et organisationnel de cette fixation des tarifs dans le domaine du médicament. Et puis Pierre Chirac, qui représente la revue Prescrire, et qui va nous parler des enjeux de cette stratégie de fixation des prix. Donc, messieurs, donc c'est toi qui commence.
Merci. Donc avant de parler du prix des médicaments, on va parler un petit peu de l'histoire, de la construction de cette réglementation qui est très abondante et pour arriver aujourd'hui à un domaine très très encadré. On va commencer par parler de l'autorisation de mise sur le marché et c'est une procédure qui est strictement encadré par la loi et dans un contexte européen. Alors, cette construction, elle s'est faite beaucoup par à-coup, consécutivement à des crises. Parmi les crises les plus marquantes, on a la crise du Stalinon, la crise du thalidomide, la crise du Mediator aujourd'hui. Et à chaque fois, cette réglementation s'est étoffée, s'est renforcée. La France, dans la construction de cette réglementation, a joué, lorsque l'Europe comportait 6 États membres, a joué un rôle majeur, notamment la définition du médicament et celle que, grosso modo, celle de la France à l'époque. Aujourd'hui, toute la réglementation qui est introduite dans le droit français est essentiellement d'origine donc européenne. Avant de parler du prix du médicament, il faut d'abord parler de la procédure d'autorisation de mise sur le marché. Tout le monde connaît le terme d'AMM. Alors, deux types d'autorités peuvent délivrer des autorisations de mise sur le marché. Des autorités européennes, donc c'est l'Agence européenne du médicament, EMEA, à Londres, qui délivre des autorisations. Je précise que je fais une présentation très succincte, plutôt introductive de la suite et de l'intervention de M. Chirac. Les autorités européennes, c'est à Londres, l'Agence européenne du médicament, qui concerne essentiellement des médicaments innovants ou destinés à plusieurs États membres de la communauté européenne. Les autres autorités sont les autorités nationales et en France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des autres produits de santé, qui s'appelait jusqu'à tout récemment l'AFSAPS. Là sont autorisés les médicaments mis sur le marché national, pour faire simple. Alors, le développement d'un médicament, c'est un processus long, très long, puisque de la découverte de la molécule jusqu'à la commercialisation du médicament, ça peut demander jusqu'à 15 ans de recherche pour explorer tous les champs d'investigation, depuis les tests précliniques, en passant par les essais cliniques et le développement industriel simultané. Alors, le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'AMM donc contient l'ensemble des informations recueillies lors des recherches et doit permettre l'évaluation du produit selon des critères scientifiques de qualité, de sécurité et d'efficacité. L'évaluation du dossier doit permettre de déterminer le rapport bénéfice-risque qui doit être au moins équivalent à celui des produits commercialisés. Et là, c'est une phrase qui figure sur le site de l'ANSM, qui figurait sur le site de l'AFSAPS et qui figure sur le site de l'ANSM. Et je pense que M. Chirac et la revue Prescrire ne sont pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Si vous allez sur le site de l'ANSM, vous avez la description de tous ces processus. Et, enfin, je vous invite à y aller, il y a une mine d'informations. D'où, notamment, j'ai extrait cette phrase. Après l'évaluation scientifique, il y a passage devant la commission d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Donc, une commission qui est, dont le secrétariat est assuré par l'Agence du médicament. Pour la commission d'AMM, il y a trois avis possibles. Soit l'avis est favorable, soit la commission d'AMM demande un complément d'information, soit l'avis est défavorable. Et c'est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui prend la décision. Alors, une autorisation de mise sur le marché, ça a une valeur réglementaire, je dirais, comme un arrêté... Ensuite, là, on aborde la phase qui, disons, intervient dans la détermination, commence à intervenir dans la détermination du prix du médicament. C'est la Haute Autorité en Santé, la HAS, qui n'a pas que cette mission, mais qui assure l'instruction interne, en interne, des dossiers et prépare synthèse et analyse critique pour les présenter devant la commission de la transparence. Alors, le secrétariat de cette commission de la transparence est assuré par la Haute Autorité en Santé. Et puis, la commission de la transparence apprécie le bien fondé de la prise en charge du médicament. Alors, le Code de la Sécurité sociale précise les critères sur lesquels doivent s'appuyer les avis de la commission de la transparence. C'est notamment le service médical rendu, ou SMR, qui peut être important, modéré ou faible. C'est l'amélioration de ce service médical rendu, et là, cette amélioration du service médical rendu reçoit des notes de 1 à 5, pas d'amélioration du service médical rendu 5, et puis une amélioration du service médical rendu majeur, c'est 1. Et puis, un autre critère sur lequel doit s'appuyer la commission de la transparence, c'est la population cible du médicament. Vous verrez que ça intervient dans la définition du prix du médicament, la population cible. Alors, la commission de la transparence transmet l'avis définitif à l'entreprise qui demande le remboursement de son produit, au comité économique des produits de santé, dont je vais parler par la suite, et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM. Alors, le comité économique des produits de santé, c'est un organisme interministériel qui est placé sous l'autorité conjointe de trois ministres, la santé, la sécurité sociale et l'économie, aujourd'hui le redressement productif. Donc. Et ce comité économique des produits de santé est principalement chargé par la loi de fixer les prix des médicaments qui sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Donc, le comité économique des produits de santé fixe le prix de préférence par la voie de conventions conclues avec les entreprises commercialisant les médicaments. Là, je crois que vous aurez un certain nombre de choses à dire, à préciser sur ce point. Le CEPS, Comité économique des produits de santé, contribue par ses propositions à la définition de la politique économique des produits de santé. C'est un point important aussi. Et alors, ce comité économique des produits de santé, il agit dans le cadre fixé par les lettres d'orientation ministérielle, orientation au pluriel, puisque, par exemple, alors orientation ministérielle au pluriel, pardon, parce qu'il y a les trois ministres qui donc fixent ce cadre. La dernière lettre d'orientation ministérielle est toute récente, puisqu'elle date du 2 avril 2013. Et les grandes lignes de cette lettre d'orientation ministérielle sont le renforcement du bon usage, l'efficience des dépenses, le soutien aux innovations. Donc voilà comment se présente cette lettre qui est datée, donc, vous le voyez, du 2 avril qui précise que la politique économique des produits de santé du gouvernement s'organise autour des objectifs suivants. La garantie d'un accès effectif pour tous à des soins de qualité, la promotion du bon usage du médicament et l'efficience de la dépense, la valorisation des innovations sources de progrès thérapeutiques, la transparence du processus de fixation des prix et la cohérence des décisions, le respect des objectifs annuels d'évolution des dépenses d'assurance maladie, le soutien conformément au pacte national pour la compétitivité, de la croissance, de l'emploi, du dynamisme des industries de santé, qui sont un secteur d'avenir prioritaire, et au développement de l'emploi. Je crois que vous aurez beaucoup de choses à dire sur ce point-là.
C'est assez contradictoire. Hein.
Voilà. Donc les signataires, vous voyez, de cette dernière lettre sont le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, et de l'autre côté, le ministre des affaires sociales et de la santé, et le ministre de l'économie et des finances. Alors, je me dis, avec cette réglementation qui s'est étoffée, disons, depuis le XIVe siècle, d'ailleurs, ça a commencé, mais qui, l'an dernier, a vu une foule de textes paraître pour sécuriser, justement, le médicament, on ne devrait plus avoir de problème.
Il n'y en a plus.
Donc, je vous passe le...
Daniel, pour ces données de base sur l'encadrement aujourd'hui du médicament. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour la deuxième fois. Donc, si on respecte l'intervalle de temps, la prochaine fois sera en 2020. Sans doute, certains étaient là déjà il y a 7 ans. Voilà, donc le prix des médicaments, donc, comme il a été dit dans l'introduction, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, plus ou moins. Mais tout le monde. Et alors, c'est quelque chose qui a de multiples dimensions, des dimensions économiques, industrielles, sociales, sanitaires. C'est l'objet de compromis, parfois de compromissions. C'est quelque chose qui est intéressant de comprendre et qui est vraiment de multiples dimensions internationales, etc. Donc, on va essayer d'aborder ces questions-là. N'hésitez pas à m'interrompre pour et puis Daniel aussi pour compléter, objecter. Voilà. Donc, juste deux mots sur Prescrire. Donc, Prescrire, c'est une revue qui a été créée il y a 33 ans qui au départ avait une subvention du ministère de la Santé et qui est totalement indépendante depuis 1993. Donc ça fait 20 ans que Prescrire est financé uniquement par ses abonnés, qui sont environ 34 000 aujourd'hui, médecins, pharmaciens, principalement, et puis étudiants de ces professions de santé. Donc il n'y a pas de publicité, il n'y en a jamais eu. Pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent à Prescrire s'engagent à ne pas avoir de lien avec les industries de produits de santé. Donc c'est mon cas, mais c'est le cas de tous les collaborateurs de Prescrire. Donc moi, de formation, je suis pharmacien. J'ai fait 4 ans de spécialisation en santé publique. Ça fait 25 ans que je travaille à Prescrire. J'ai travaillé aussi à Médecins sans frontières une dizaine d'années. Et j'ai été maître de conférence à Sciences Po pendant 6 ans. J'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Donc, je suis responsable de rubrique, donc membre de la rédaction, et je suis président de l'association Mieux Prescrire depuis un an. C'est pour ça que j'ai plus le temps de faire autre chose. prescrire et appartient à une association loi 1901. Alors, quelques notions générales. La question du prix du médicament. Quand on réfléchit, comment il est constitué. Donc là, on a vu qu'il y a une institution en France qui s'occupe de ça, le Comité économique des produits de santé. Mais c'est une question qu'on peut se poser de façon générale. Au cours du temps, ça a changé. Donc, on pourrait se dire, finalement, les médicaments, ils devraient être vendus au coût de production. Voilà, donc ça existe, en fait. Hein, on peut dire, d'une certaine façon, que les médicaments génériques, par exemple, s'ils sont tellement moins chers que les autres médicaments, c'est parce qu'ils sont vendus à un coût de production plus une marge qui est réduite. Hein. Donc, ça permet de voir... Alors en France, le différentiel de prix entre les médicaments génériques et les produits qui sont encore sous brevet, il n'est pas si important que ça. Mais il y a d'autres pays où la différence est beaucoup plus importante. Je vais juste prendre le domaine des médicaments contre le sida, les antirétroviraux. Au moment où les firmes produisant des génériques, les firmes indiennes ont produit des génériques, En 2 ou 3 ans, elles ont vendu ces médicaments au centième du prix des firmes américaines et européennes. Hein. Donc là, on voyait un différentiel de prix, le centième. Donc le centième, c'était le coût de production. Et les 99%, c'est les profits, c'est le marketing, c'est tout un tas d'autres choses. Mais en l'occurrence, ce n'était pas le coût de production. Alors cela étant, si on vend tous les médicaments au coût de production, on n'aura pas de recherche. Donc il faut bien prévoir ça aussi. Alors, dans un système où aujourd'hui, pour l'essentiel, les pays où se fait la recherche ont sous-traité cette recherche aux firmes pharmaceutiques qui sont privées. On pourrait imaginer qu'il y ait plus de recherche, que la recherche pharmaceutique soit considéré comme un domaine stratégique où il y a plus d'investissements publics comme on a, par exemple, dans le domaine spatial ou d'autres secteurs comme ça. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour l'essentiel, donc ce sont des firmes privées avec des actionnaires, pour la plupart, qui font de la recherche. Donc, ça veut dire que la société elle est obligée d'accepter le principe qu'il faut que ça soit intéressant financièrement. Pour des entreprises privées, d'investir dans la recherche. Il faut donc que lorsqu'elles vont vendre un médicament, il faut qu'elles reviennent sur cet investissement de recherche. Et puis, il faut qu'elles intéressent aussi les marchés financiers qui vont mettre de l'argent sur la table. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. On paie de la recherche, on paie aussi beaucoup d'autres choses, on paie du marketing, etc. Mais on paie de la recherche. Peut-être dans la discussion, on abordera la question de savoir combien coûte la recherche. En fait, on n'en sait rien. Ça coûte probablement assez cher, mais moins que ce que disent les firmes, bien entendu. Voilà, mais c'est un développement en soi.
Juste une précision. Dans le coût du médicament, il y a au moins dans les pays en Europe et dans un certain nombre de pays industrialisés, le coût de la distribution qui est fiable, le coût de la dispensation par des professionnels qui représentent quand même une sécurité.
Oui, absolument. Donc, quand on achète un médicament en officine, on paie la marge du pharmacien, la marge du grossiste répartiteur, en plus du prix qui est payé au producteur. Hein. Et c'est d'ailleurs pas négligeable, ces marges-là. Mais on peut imaginer qu'un jour, et d'ailleurs ça va se développer en France, de la vente de certains médicaments sur Internet. Donc. En tout cas, c'est absolument évident qu'il y a une marge pour la distribution. Une distribution qui aujourd'hui est sécurisée en France, en tout cas. Alors, dans le temps, on verra un exemple tout à l'heure, mais il y a un moment donné où les firmes ont dit, nous, on va vendre... le médicament en fonction des économies que ça fait faire dans un autre secteur de la santé. Par exemple, telle pathologie, aujourd'hui, les personnes elles vont une semaine à l'hôpital. Nous, on a un médicament, les gens ne vont plus à l'hôpital. Donc, ça fait économiser X milliers d'euros. Donc, on va le vendre X milliers d'euros moins 1 euro. Donc, la sécurité sociale fait des économies. Voilà, donc ça, c'est... Y a... Alors, les firmes, elles essaient tous les argumentaires. Hein, donc, elles utilisent celui-là, mais si ça ne marche pas, elles vont en utiliser un autre, bien entendu. Mais ça, ça peut séduire des gens hein, qui vont dire « Ah oui, finalement, ce n'est pas bête. On va faire des économies sur les dépenses hospitalières. » Alors, là où ça se complique encore un petit peu, c'est un prix lié au progrès thérapeutique. Parce qu'on peut très bien défendre deux options totalement contradictoires. C'est-à-dire dire « Ce médicament, il est absolument essentiel. » Donc, il faut qu'il soit vendu à un prix très, très bas, de façon à ce qu'il soit disponible partout. Et puis, on peut dire, s'il est absolument essentiel, indispensable, il faut qu'il soit vendu très cher, parce que ça va être hyper incitatif pour les firmes pour ne sortir que des médicaments très intéressants. Donc, les deux ont des logiques qui sont très différentes, hein, mais les deux peuvent se défendre. On verra après, on va continuer de réfléchir un petit peu à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on prend dans le domaine des antihypertenseurs, enfin, dans le domaine des médicaments du domaine cardiovasculaire, il y a une famille ancienne qui sont des médicaments diurétiques qui sont intéressants, enfin qui sont des médicaments de choix dans certaines situations, qui sont pratiquement plus vendus en France parce que, en fait, les firmes n'ont aucun intérêt. Ils ne rapportent pas assez d'argent. Donc, c'est quand même bien embêtant. Et en fait, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, si on veut avoir des producteurs qui continuent à commercialiser des médicaments intéressants du point de vue sanitaire, on est bien obligé de s'intéresser au fait qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Donc, le prix extrêmement bas peut être dissuasif. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vrai que sur un plan théorique, se dire un médicament essentiel, eh bien, il ne coûte rien. Oui, mais enfin, il faut bien que quelqu'un le produise. Et, voilà, donc, il faut s'assurer du maintien de la production. Prix lié au marché, c'est-à-dire qu'il y a une demande forte, donc le prix va être fort. Voilà. Donc, cette logique-là, elle est appliquée en partie aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs secteurs du marché pharmaceutique, mais le marché de base, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire la demande est forte, donc le prix augmente. Donc en Europe, on n'est pas du tout familier avec ce genre de conception, mais ça marche comme ça. Voilà. En tout cas, ça c'est sûr que cette logique-là, on va le voir avec des exemples, c'est la logique d'aujourd'hui, hein, pour résumer. C'est quand même la logique principale. Et toutes les autres, elles ont été à un moment donné plus ou moins importantes. Alors toujours dans les notions générales, il y a plusieurs options pour un pays donné par rapport au prix du médicament. Soit on essaie de l'encadrer, de le contrôler, soit il est libre. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a tout. Il y a des pays où le prix est libre, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que le prix change tout le temps aux États-Unis. Au départ, les médicaments sont mis sur le marché à un prix qui est déjà élevé. Mais s'il se trouve qu'il y a une demande qui est forte, eh bien, le prix va augmenter. Il ne va pas baisser, il va augmenter. Et ça, c'est la firme fait ce qu'elle veut en fait, hein, c'est totalement libre. En Europe, on a des pays qui sont très proches de ça dans l'esprit, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne étaient dans une logique comme ça. Au fil des années, ces pays ont pris l'habitude quand même de viser un prix qui représente la moyenne de ce qui est offert dans d'autres pays. Donc, enfin, grosso modo, c'est quand même des prix relativement libres. Au Royaume-Uni, il y a une espèce d'encadrement, mais on reste quand même dans une logique de prix libre. La France prétend encadrer le prix des médicaments. Je dis prétend parce que les résultats ne sont pas très convaincants. Dans le domaine des médicaments issus de biotechnologie, les prix français sont supérieurs à la moyenne européenne. Voilà, pour des prix encadrés, c'est pas mal. Sauf si on a fait exprès que ce soit plus élevé que la moyenne européenne. Mais en tout cas, le résultat, c'est ça. Donc, Daniel a présenté les différents niveaux d'ASMR. Donc, en théorie, le prix en France des médicaments, il est lié à l'amélioration du service médical rendu. Donc, c'est en théorie parce qu'il y a de nombreuses exceptions, dont la Cour des comptes fait ses choux gras quand elle fait des rapports sur le médicament. Donc, grosso modo, c'est vrai, mais il y a de nombreuses exceptions tout à fait intéressantes. Et en tout cas, pour les médicaments considérés comme les plus intéressants, par la commission de transparence. En fait, le prix est officiellement libre. Ce qui fait qu'au fil des années, le prix des médicaments en France a rejoint, en tout cas l'écart avec le prix, la moyenne européenne s'est beaucoup réduit, hein, et donc il y a un écart aujourd'hui assez faible. Sachant quand même que la France, c'est un des plus gros marchés du médicament au monde, et donc on pourrait imaginer que dans le rapport de négociation, si on achète beaucoup en quantité, on peut avoir des remises. Hein. Ça ne fonctionne pas très, très bien, en fait. Ça. C'est, voilà. Je souligne que l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, qui est quand même plutôt un organisme qui défend une économie libérale, ils sont tout à fait en faveur du fait que les pays puissent négocier les prix et des prix plus bas. Soit s'ils ont un volume important de vente, soit s'ils ont un niveau de vie plus bas. Hein. Bon, mais en pratique, ça marche pas trop comme ça. Voilà. Alors, ensuite, un prix. On pourrait imaginer, est-ce qu'il y a un prix mondial du médicament ? Non, il n'y a pas un prix mondial du médicament. Il y a des prix différents selon les pays. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que donc en Europe, la plupart des pays essaient d'avoir, de pas trop s'éloigner d'une moyenne. De prix de la moyenne des pays comparables, bien entendu, c'est-à-dire de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Alors, ce différentiel de prix alimente ce qu'on appelle des importations parallèles, qui sont des importations... Leur nom peut faire croire que c'est un commerce souterrain. Non, c'est parfait. C'est autorisé, c'est officiel. C'est encadré.
Ça n'a pas toujours été.
Voilà, ça n'a pas toujours été. Mais donc, c'est officiel et c'est encouragé même par la Commission européenne. La Commission européenne, systématiquement, s'oppose aux barrières aux importations parallèles. Parce que dans sa logique d'économie libérale, la concurrence par les prix, c'est quelque chose de vertueux. Et donc, il faut laisser faire les gens qui profitent des différentiels de prix. Sauf que... le fait que ces importations parallèles existent, ça veut dire que ça gêne beaucoup les pays les plus pauvres européens, parce que eux, ils ont intérêt à avoir des prix évidemment bien inférieurs. La Pologne a intérêt, par exemple, à avoir des prix bien inférieurs au prix français. Bon, mais la Pologne est embêtée pour faire ça, parce qu'il va y avoir des opérateurs qui vont acheter des médicaments en Pologne et essayer de les revendre dans des pays, la France ou les Pays-Bas, etc. Donc les firmes pharmaceutiques, évidemment, elles apprécient pas du tout. Donc elles vont résister beaucoup à la volonté des pays les moins riches d'avoir des prix plus bas. Donc à un moment donné, les firmes pharmaceutiques ont dit, eh bien, pour s'opposer aux importations parallèles, on va essayer d'avoir un prix unique européen, un prix officiel. Voilà, donc il y aura un seul prix. Donc vous imaginez, c'est assez aberrant. Hein. On ne peut pas avoir ça parce qu'il y a des pays qui n'auront plus accès à ces médicaments. Et donc, pour rassurer, ils ont dit oui, mais ce sera un prix fictif. Hein, voilà. Mais par derrière, on fera des ristournes. Bon, donc ça a été abandonné par les firmes. Elles essaient maintenant, pour s'opposer à ces importations parallèles, elles imposent des quotas par pays, ce qui explique une partie des ruptures de stock qu'on a en France et dans tous les autres pays. C'est pour empêcher... cette circulation entre les pays où le même médicament est vendu à des prix différents, elles disent, ben voilà, l'Espagne nous aurait tant de ce médicament, comme ça c'est juste pour vous, vous n'avez pas le droit de le revendre aux Pays-Bas, par exemple. Donc voilà des choses qu'on ne connaît pas toujours forcément, mais qui peuvent avoir une conséquence très nette dans les officines françaises, c'est que parfois quand un médicament manque, c'est parce qu'on a ces circuits... parallèles, voilà, mais officiels et légaux, qui enrichissent surtout les gens qui font ce commerce. Hein. Ça bénéficie à pas grand monde d'autre. Voilà. Alors la question du prix, notamment du prix élevé, c'est combien de temps ça dure ? Donc ça dure la durée du brevet. C'est-à-dire que, donc Daniel a dit, le temps de recherche, ça peut être c'est des années et des années. Bon, 15 ans, c'est probablement un cas un peu extrême. Mais en tout cas, ce temps-là, il se passe pendant le temps, une grande partie de ce temps-là, ça se passe pendant le temps où le médicament est protégé par des brevets. mais ça ne sert à rien pour la firme, parce que le brevet, il sert à en fait imposer un monopole. Quand il y a un brevet sur un médicament, les génériques ne peuvent pas copier un médicament. Donc la durée de recherche effective pendant le temps du brevet, pour les firmes pharmaceutiques, c'est très important, parce que plus c'est court, le temps de recherche, plus elles vont avoir un monopole qui est long, pendant lequel elles vont avoir ce prix très élevé. Alors les firmes ont obtenu il y a déjà très longtemps des allongements de durée de brevet. Hein, parce que donc le brevet c'est 20 ans, mais la plupart des pays rajoutent 5 ans jusqu'à 7 ans de monopoles pour que les firmes, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles investissaient, enfin qu'elles reviennent sur leur investissement, donc dans les marchandages, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, entre les États et les firmes ont obtenu une prolongation de leur monopole de commercialisation. Donc c'est seulement pendant ce temps-là qu'elles peuvent vendre le médicament à un prix très élevé. Quand le brevet est tombé, la concurrence est ouverte aux génériques. Et donc à ce moment-là, on a ces génériqueurs qui arrivent sur le marché à un prix beaucoup plus bas, parce que ces firmes, elles sont sur un marché qui est différent, qui est celui de vendre au prix de production plus un petit quelque chose.
Souvent, le laboratoire prévoit l'arrivée des génériques en faisant lui-même le générique du produit, non ?
Voilà. Bien sûr, les grosses firmes ont trouvé des stratégies pour contrarier la concurrence par les génériques. C'est déjà de commencer par faire leur propre générique. Et donc... ça a de multiples avantages, juste pour donner un exemple, c'est-à-dire par rapport aux médecins ou aux pharmaciens, va y avoir forcément un peu plus de confiance. En tout cas, en marketing, ils vont utiliser ça, les firmes, en disant bah oui, c'est le même. Voilà, c'est générique, mais c'est le même. On l'a fait dans la même usine, c'est la même matière première. Donc, ils ont un petit plus en termes d'image. Alors ensuite, le prix des médicaments. Donc voilà, les firmes, elles savent qu'en fait, elles ont un certain nombre d'années où elles vont pouvoir vendre leurs médicaments plein pot et qu'après, ça va être plus difficile. Hein. Donc elles ont, dans leur stratégie, il faut mettre sur le marché très vite et il faut mettre la promo à fond dès le départ pour que ça démarre plein pot les ventes, parce qu'elles savent que ça ne va pas durer pendant 25 ans. Hein. Alors, quels médicaments ? En France, c'est très différent selon la ville ou l'hôpital. Hein. Donc, la ville, c'est les remboursements par la Sécurité sociale. Donc, c'est là où le prix est encadré, comme Daniel l'a présenté, avec les comités économiques des produits de santé. C'est là où, en France, on dit que théoriquement, c'est contrôlé. À l'hôpital, ce n'est pas contrôlé, c'est libre. Alors, il y a des structures à l'hôpital qui cherchent à contrôler les prix, mais en fait, les études officielles qui ont été faites montrent que, quelle que soit l'énergie que les hôpitaux passent sur la question du prix des médicaments, les hôpitaux français, ils arrivent tous à peu près à avoir le même, c'est-à-dire celui que la firme voulait. Alors souvent, quand on parle de la facture pharmaceutique, on parle de la facture ville, remboursement sécu, et on oublie souvent la partie hôpital, qui pèse quand même quelques milliards. Alors, autre marché, automédication, prescription. En France, les médicaments d'automédication, enfin ceux qui sont hors prescription, le prix est libre aussi. D'ailleurs, vous vous êtes certainement rendu compte, quand un médicament est déremboursé, soit il disparaît, soit il est toujours là à un prix multiplié par X, entre 2 et 10, enfin, ça change tout. Le prix est libre, c'est-à-dire là, tout le monde s'en fout. Hein. La Sécurité sociale, il n'y a plus rien à voir là-dedans, donc... Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue ces différents secteurs. Et c'est important parce que la partie non remboursée risque d'augmenter dans le futur. Donc là, on tombe dans un secteur à prix libre. Alors, faisons un peu de philosophie. Il y a plusieurs conceptions là. Les médicaments produits comme les autres, ça c'est clairement la position de la Commission européenne. Le médicament a été rattaché pendant très longtemps à la Direction Générale Entreprises. Alors, un certain nombre d'acteurs ont réclamé que ça soit plutôt rattaché à la Direction Santé et Protection des Consommateurs. Donc, c'est le cas depuis 2 ans. Donc prescrire avec d'autres, par exemple au sein du collectif Europe et Médicaments, c'est quelque chose qu'on a demandé beaucoup, à ce que la médicament quitte cette direction générale d'entreprise pour la direction générale dite Sanco, hein, santé consommateur. Donc on est content sur le principe, mais en pratique ça n'a rien changé. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes de toute façon. Elles sont parties de la DGE à la Sanco, c'est les mêmes qui s'occupent du médicament. Bon, le premier directeur de cette direction générale Sanco, enfin le premier à avoir eu le médicament sous sa houlette, c'était John Daly. Et c'est le, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, il s'est fait expulser de la Commission européenne pour une histoire un peu louche de compromission avec des entreprises du tabac. C'est un truc pas très clair, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air si clean que ça. Il avait donné son... À la Direction générale santé consommateur, c'est quand même lui qui a donné l'autorisation à la fameuse pomme de terre OGM, qui depuis a été retirée du marché par son producteur parce qu'elle ne trouvait pas de marché, mais voilà, quelqu'un qui défend les consommateurs, il a autorisé une pomme de terre OGM. Alors c'était pour la nourriture animale, hein, mais quand même. Voilà, donc passage à la Sanco, pour l'instant, on ne voit pas trop la différence. Et alors, il y a des aspects qui sont toujours du médicament, qui sont toujours sous la houlette de la Direction générale d'entreprise, par exemple, c'est justement le contrôle des prix et des taux de remboursement. Ça, c'est resté à Direction générale d'entreprise, parce que c'est du sérieux, c'est de l'argent, c'est du business. Donc, c'est quand la Commission européenne, et la Commission européenne actuellement a une proposition de directive pour encadrer l'activité des États dans le domaine de la fixation des prix et des taux de remboursement de médicaments. C'est la Direction générale d'entreprise qui s'occupe de ça. Alors, produits comme les autres, voilà, il y a des gens, il faut bien être conscient de ça, mais bien sûr, vous l'êtes, il y a des gens qui trouvent, oui, c'est un produit comme les autres, voilà. Bon, alors, il y a bien sûr d'autres conceptions, dire c'est un bien de santé, donc ça n'a rien à voir, c'est pas un produit comme les autres, et donc il faut trouver des règles tout à fait particulières. Alors, Daniel l'a dit, c'est un secteur qui est particulièrement encadré comme secteur industriel. C'est sûr que c'est plus encadré que d'autres, hein, mais on pourrait quand même rêver mieux, enfin imaginer mieux, vouloir mieux comme encadrement. Donc certainement, oui, c'est un bien de santé. Bien public, alors là, c'est une notion un petit peu différente. On peut pousser la logique jusqu'à dire c'est un bien public, donc par exemple dire il n'y aura pas de droit de propriété intellectuelle sur les médicaments, ou alors les médicaments ils doivent être vendus à prix coûtant, ou alors on peut exproprier, prendre des droits sur les médicaments. Donc bon, ça fait partie des valeurs qui circulent, qui sont importantes à alimenter, ne serait-ce que pour équilibrer. Hein, la logique qui consiste à dire c'est un produit comme les autres, ou en tout cas, sans le dire, à faire comme si c'était un produit comme les autres et avoir une logique purement industrielle et mercantile de ces produits de santé. Donc c'est important d'alimenter cette notion de bien public. On pourra développer après avec vous si vous voulez, mais voilà, en tout cas, prescrire, nous, on défend mordicus le fait que c'est des biens de santé et qu'il y a des notions de bien public. Alors, pas pour tous les médicaments, pour les médicaments essentiels, enfin, appelez-les comme vous voulez, parce qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas du tout de l'ordre du bien public, dont il faudrait se débarrasser, hein, bien entendu. C'est très difficile d'avoir une vision unique de médicaments. Il y a des médicaments qui sont extraordinaires, et il y en a, c'est des vraies merdes, quoi. Alors, si on voit les choses un peu par l'histoire... Dans les années 1970, les firmes, il y avait entre 200 et 300 médicaments nouveaux mis sur le marché en France. Cette époque est bien révolue parce qu'on est tombé à une trentaine, hein, il y a quelques années. Là, ça remonte un chouïa, mais voilà. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire la culture de l'époque, la réalité économique, mais aussi tout ce que ça entraînait en termes de culture était très différent. C'est-à-dire, pour les firmes, il n'y avait pas de difficulté à mettre sur le marché du médicament. À cette époque-là, elles ne pensaient même pas à dire on veut un prix élevé parce qu'on a eu des coûts de recherche importants. On était dans une logique de coûts de production, en fait. Les firmes mettaient sur le marché des médicaments. Alors, c'était plus facile de mettre sur le marché, c'est-à-dire les autorités étaient moins exigeantes, Mais de ces années-là, il y a eu des super médicaments mis sur le marché. Hein. Et si on regarde la liste des médicaments essentiels de l'OMS, il y a 300 médicaments, il y en a un paquet qui date de cette époque-là. Parce que les médicaments, alors les antibiotiques, les anti-infectieux, ils peuvent perdre leur efficacité, mais en dehors de ce domaine-là, les médicaments, ils marchent toujours.
C'est aussi une époque quand même où les fabricants allaient négocier directement au ministère le prix de leurs produits. Et on pouvait trouver un médicament, deux médicaments avec la même indication, mais avec un prix qui allait du simple au double. Mm-hmm. Donc, disons qu'en termes de transparence, on a quand même beaucoup progressé.
Oui, absolument. Mais en tout cas, les prix n'étaient pas très élevés. Du simple au double, mais ça restait... on ne se posait pas la question, en fait. Voilà. On a eu des prix élevés après. Donc là, on a eu beaucoup de... Voilà, c'était une époque un peu faste. Voilà, donc juste prendre l'exemple du paracétamol, hein, qui est l'antalgique de référence de premier niveau pour les douleurs, enfin l'antalgique de niveau 1, les premières étapes. Il a plus de 100 ans, le paracétamol. Donc c'est le médicament le plus vendu en France, en volume. Et même les 3 ou 4 premiers médicaments vendus en France, c'est du paracétamol, sous différents noms. Donc il a plus de 100 ans, il marche toujours aussi bien. Dans 100 ans, il marchera toujours pareil, sauf si on a été génétiquement modifié, mais à part ça, il marchera toujours, en principe. Juste pour souligner que ça, c'est une contrainte particulière des industriels dans ce domaine. C'est-à-dire que je ne vois pas tellement d'autres domaines industriels où un leader du marché a 100 ans. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est parce que ça marche toujours. Dans la plupart des domaines industriels, les produits se périment beaucoup plus vite, évidemment. Voilà. Alors, il y a une chose qui s'est passée en 77. Alors, peut-être il y a d'autres exemples, mais c'était quand même assez emblématique. C'est la cimétidine. Donc, c'est un médicament qui était utilisé dans l'ulcère de l'estomac. Donc très largement, hein, parce que c'est un problème très répandu. Et donc il a été mis sur le marché en 1977 sous le nom de Tagamet. Et là, tout d'un coup, on est tombé dans des prix vraiment élevés. Donc j'ai essayé de retrouver les prix, mais c'était plus de 100 francs la boîte. Pardon. 100 francs la boîte. On était très au-dessus du prix des boîtes pour des problèmes de santé communs. Voilà. Donc là, on a eu... Ça, et alors comment ils ont argumenté ça? Ils ont argumenté ça en disant, bah avec cinétidine, les gens, ils n'ont plus de perforation de leur ulcère, donc on économise X jours d'hôpital. Donc c'est la première fois où on a eu, en plus avec étude à la clé, hein, c'était pas du bidon. Voilà, c'est vrai. Donc ils étaient tranquilles, donc ils ont pu obtenir ce prix en disant, bah voilà, vous allez faire des économies, donc c'est pas cher. Voilà. Alors, la ranitidine, on est dans la même famille, même classe thérapeutique. Et j'ai lu un bouquin sur le PDG de la firme Glaxo, qui a vendu à Zantac la ranitidine. Et alors lui, il s'est posé un problème, il se dit, bon, on arrive, on est les deuxièmes sur le marché, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc il y avait des gens dans la firme qui disaient, ben, on va vendre moins cher, parce qu'on ne va pas pouvoir... on ne va pas être concurrentiel, il faut qu'on soit concurrentiel par les prix. Et le Sykes, il a dit non, il a dit on va le vendre franchement plus cher pour bien montrer qu'on est meilleur. Mais c'était du pur marketing, quoi, école de commerce, pur jus. À l'époque, il n'avait pas d'argument pour ça. Après, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un petit plus à la réalité, mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était juste un coup de poker, dire on va le vendre plus cher, avec donc un effet marketing, c'est plus cher donc c'est mieux. Et puis c'est un avantage non négligeable, c'est que puisque ça rapporte plus d'argent, on peut mettre plus d'argent en promotion. Donc on va pouvoir encore plus asséner cet argument. Ranitidine, c'est super bien. Alors j'ai mis les deux noms parce que ça montre aussi ce qui s'est passé en France. Là c'était bien embêtant. Alors là on était à 200 francs. Hein, la ranitidine, 200 francs en 81. Donc flûte, alors ça c'est bien embêtant parce que ça va coûter très cher à la France. Donc la France a négocié une co-commercialisation avec un labo français, Fournier à Dijon, sous le nom de Raniplex, donc marchandage avec la firme britannique GSK. Ok, vous avez les 200 francs, mais on veut que Fournier à Dijon il puisse en vendre aussi. Glaxo n'a pas trop vu le truc, ils ont dit ok, d'accord, sauf qu'ils se sont aperçus que la France avait triché parce que les hôpitaux, ils ont tous acheté leur Aniplex et pas la Zantac. Voilà. Alors aujourd'hui, ces choses-là sont théoriquement interdites, hein, les co-commercialisations. mais à l'époque, ça faisait partie des... On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres marchandages, mais il y a eu pas mal de co-commercialisations en France qui étaient sur ce principe. Ok, vous avez le prix, mais en échange, on fait un peu travailler les usines françaises ou en tout cas, voilà, ça marchait comme ça. Alors l'autre grande étape, c'est 87, Zidovudine, Rétrovir, c'est le premier médicament contre le sida. Là, on est passé à 1000 francs. Vous voyez, on double, enfin là, on tagamètre à Niplex, on double, là, on multiplie par 5. La revue financière The Economist a dit en 87, c'est le prix du marché, quoi. Ils étaient eux-mêmes étonnés. Un prix comme ça, c'est juste parce que les gens meurent, c'est des gens jeunes, il n'y a rien qui marche, il y a juste ça. Donc la firme, elle fait ce qu'elle veut. C'est exactement ça. Parce que le coût de recherche, il était extrêmement faible. La zidovudine existait déjà. Elle avait été testée comme anticancéreux, ça ne marchait pas trop. En tout cas, on avait déjà repéré aussi qu'elle était efficace sur des virus qui n'étaient pas très éloignés du virus du VIH. Le coût de production, il était extrêmement limité parce que l'azidovudine, c'est une molécule très très simple qui était facile à synthétiser, qu'on pouvait extraire aussi de la laitance du hareng. Vous voyez, c'est rigolo. En tout cas, coût de production, c'était peanuts. Donc, prix du marché, 1000 francs. Voilà. Alors, après, tout le monde s'est engouffré là-dedans, quoi. C'est-à-dire... en particulier, bon, sida évidemment, hein, les prix après c'était minimum ça et toujours plus. Le cancer s'est engouffré là-dedans. Donc là, j'ai mis pour le cancer imatinib 2001. Là, on passe à 30 000 euros l'année par personne. Et aujourd'hui, dans les anticancéreux, c'est 50 000 euros par an les coûts de traitement. Donc on a complètement changé. Maladie orpheline, ça peut être 300 000 euros par an. Mais là, il y a très peu de patients. Mais en tout cas, dans cancéro, c'est 30 à 50 000 par an. Imatinib, j'ai pris les données sur le site de la Sécu. C'est 8e en France en montant de remboursement. Voilà, 8e, il y a 3 000 personnes sous traitement. Donc on a complètement changé hein, par rapport aux années 70, ça n'a plus rien à voir. Imatinib, c'est un anticancéreux qui est intéressant dans certaines indications, hein, y a pas de doute. C'est pas le cas forcément de tous les anticancéreux qui valent aussi cher ou plus cher. Hein. Y en a qui rajoutent presque rien de survie avec des qualités de vie dégueulasses. Enfin, bon. Mais aujourd'hui, un anticancéreux, pratiquement, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Caricature à peine. Alors, dimension sociale, alors là c'est écrit un peu petit. Là c'est extrait des comptes nationaux de la santé pour l'année 2011. Et donc c'est au sujet de l'évolution du taux de remboursement des médicaments en France. Donc il est dit, le taux de remboursement moyen des médicaments par la sécurité sociale avait fortement augmenté entre 1995 et 2005. Donc c'était dû à la mise en place des affections de longue durée avec des prises en charge à 100%. Bon, cette tendance a inversé entre 2005 et 2008, la prise en charge par la Sécu passant de 68% en 2005 à 65,4% en 2008. Elle revient à 66% en 2011. Donc, vous voyez, c'est seulement deux tiers. Hein. Alors symétriquement, le reste à charge des ménages avait augmenté de 4,2 points sur 2005-2008, passant de 13 à 17. Notamment avec l'instauration en 2008 d'une franchise de 50 centimes par boîte de médicaments. Après avoir reculé en 2009, il s'établit à 17,7 en 2011. Donc ça sort de la poche. La part des médicaments pris en charge par les organismes complémentaires, 15% en 2011, a en revanche diminué de 3,6 points depuis 2000 sous l'effet mécanique des déremboursements et de la franchise. Voilà, puis de toute façon, les mutuelles, il faut les payer. Hein. c'est pas gratuit, soit individuellement, soit les contrats de groupe, mais de toute façon, ça se paye. Voilà. Et puis le recul donc, des mutuelles s'est accru depuis 2010, certains organismes complémentaires ne prenant plus en charge les médicaments à service médical rendu faible, remboursé au taux de 15%. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est une prise en charge par la solidarité nationale qui est en baisse, avec la partie mutuelle et partie reste à charge qui augmente. Alors ça, pour certaines personnes, bah, c'est très important. D'abord parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle en France. Et donc quand, dans les études auprès des personnes sur le renoncement aux soins, on a souvent du médicament, en fait. Hein. Voilà, alors même si ont été mis en place des aides pour l'acquisition d'une mutuelle, et même s'il y a des prises en charge particulières pour les personnes qui sont pas dans le régime général, on sait qu'il y a des personnes qui renoncent à l'achat de médicaments à cause de leur prix. Donc ça, c'est une dimension tout à fait importante et qui justifie qu'on s'intéresse à ça, c'est-à-dire le médicament, il pèse dans les comptes de la protection sociale, mais il pèse aussi dans les budgets des familles. Alors la dimension industrielle, et là ça se complique, parce que le médicament, bah, il est important dans l'économie française. Donc j'ai mis le chiffre en bas, 100 000 personnes, les trois quarts dans 8 bassins d'emploi. Donc ces bassins d'emploi, ils n'ont pas envie que les firmes elles s'en aillent, ou qu'elles ferment, ou qu'elles délocalisent. Et les responsables politiques de ces régions, ils le savent très bien, hein, et ils savent se battre, se défendre, pour conserver l'emploi dans leur région, l'emploi, mais aussi les impôts, etc. Hein. Au niveau de la France, eh bien, la balance commerciale, elle est positive. Ça, je l'ai pris sur le site du syndicat des firmes pharmaceutiques. Et donc, on voit donc le solde importation-export en 2011, il a augmenté 34%. Donc, les firmes, elles en sont très fières. Et alors, elles argumentent ça très, très fort. Hein. Elles vont auprès de tout le monde, auprès du public, auprès des politiques, en disant « Faites gaffe à ne pas casser votre joli bijou firme pharmaceutique, parce que nous, on représente de l'emploi, de l'export. On a un secteur dynamique, on est en croissance. » Oui. Oui, mais ça, c'est... Voilà, donc ça, c'est un argument. On trouve cet argument très, très bien placé sur le site du syndicat des firmes. D'autant que... bon, là, c'est les emplois directs, mais il y a beaucoup d'emplois indirects. C'est-à-dire que... il y a de la sous-traitance, il y a aussi toute une recherche clinique en amont, hein, qui est faite, recherche même fondamentale. Enfin, il y a toute une recherche en amont qui est liée à la présence en France de firmes pharmaceutiques. Donc en fait, ça représente plus que ça, hein, de façon assez claire. Par ailleurs, pour les responsables politiques, par rapport à différents secteurs industriels qui existent, il y en a où la France n'est pas compétitive, parce qu'on n'a pas le niveau, parce que le coût de production est trop élevé. Et puis, il y a des secteurs dits de haute technologie où on est un peu plus compétitif. Le médicament, c'en est potentiellement. Hein. Enfin, c'en est. Hein. Donc, les politiques s'en mêlent. Hein. J'ai essayé de faire un petit jeu de mots là, sur le s'en mêle. On pourra revenir sur Cahuzac, si vous voulez, dans la discussion. Mais là, j'en parle pas. Mais souvent, ils s'en mêlent un petit peu, oui, effectivement. Alors, donc là, j'ai pris des pages du livre de Christian Lajoux, qui a été pendant une petite dizaine d'années le président du syndicat des firmes pharmaceutiques, et qui vient de s'en aller juste cette année. Et donc, il a écrit un bouquin un peu témoignage. Voilà. Et donc là, il parle du conseil, le CSIS, la troisième ligne, Conseil stratégique des industries de santé, qui est en fait un organisme au niveau de l'Élysée, entre les firmes et l'Élysée et un certain nombre de ministères. Donc là, Daniel, il a parlé du comité économique des produits de santé, qui est chargé, qui est l'administration en France, qui est chargée de fixer le prix des médicaments. Donc c'est un personnage clé, enfin c'est une institution clé, hein, bien entendu. On ne sait pas trop ce qui se passe dedans, on connaît un certain nombre de règles, c'est surtout une grosse usine à gaz, mais là, on comprend tout d'un coup de façon assez claire. Donc le patron des firmes qui dit, il parle du CSIS, là, il dit, en évoquant ce sujet, il me revient ce souvenir du président Renaudin, donc le patron du comité économique des produits de santé, me cherchant, on a l'impression en courant même, avec l'avenant à la main, à l'hôtel Marigny, à l'issue du CSIS en 2009, pour que je parafe le plus rapidement possible, tant il y était attaché au nom de la production industrielle. La personne qui est attachée à la production industrielle, c'est le haut fonctionnaire, dont tout le monde dit que c'est un grand serviteur de l'État, qui est chargé de contrôler les prix des médicaments en France. Voilà. Donc là, vous voyez, on a compris comment ça marche. Donc après, il nous décrit un peu l'accord cadre. Donc l'accord cadre, c'est entre le comité économique des produits de santé et les firmes. Personne ne le connaît, hein. Il y a zéro transparence dans ce domaine. Il est nulle part. Voilà, en tout cas, le public n'y a pas accès, presque n'a pas accès. Donc l'un des facteurs de succès de l'accord cadre dans les années 1990 fut d'avoir participé à l'industrialisation du territoire en échangeant notamment pour les entreprises des prix européens, malgré tout, toujours parmi les plus bas, il se plaint quand même un peu, contre des sites de production de médicaments blockbusters, donc à grosse vente, ce qui nous a permis de nous maintenir parmi les premiers producteurs et exportateurs en Europe. On a vu les chiffres tout à l'heure, c'est exact, ça marche. Ce fut vraisemblablement parmi les politiques les plus constructives et les plus intelligentes de synthèse entre la régulation économique, donc par exemple la gestion des comptes sociaux, et la politique industrielle. Sauf que personne n'est au courant, hein, et que ça se passe entre quelques personnes. Mais c'est un très beau compromis. La preuve, malgré plusieurs périodes difficiles, et certains diront plusieurs coups de canif dans le contrat, jamais ni les entreprises ni l'État n'ont souhaité la dénonciation de cet accord. Et je peux vous dire qu'en 2013, c'est toujours le cas. Hein. Voilà. Donc le comité stratégique des industries de santé est un lieu de concertation et d'échange informel et ouvert, qui permet au pouvoir public de mieux comprendre les contraintes, enjeux et ambitions de l'industrie et aux industriels de percevoir les exigences des différentes politiques publiques pour adapter leur stratégie d'entreprise. Il est aussi une méthode de travail entre les représentants de l'État français et les patrons internationaux d'une dizaine d'entreprises de santé pour définir les conditions de l'attractivité et la compétitivité du pays dans le domaine des sciences du vivant avec une vision résolument industrielle. Faire de la France un pays d'investissement dans la recherche et la production de produits de santé. En octobre 2009, quand il a présidé la quatrième édition du CSIS, Nicolas Sarkozy a souhaité en renforcer le contenu dans le cadre d'un échange équilibré entre l'État et les industriels au travers de la définition de 11. Voilà. Le CSIS a bénéficié du soutien constant de Xavier Muscat, secrétaire général de la présidence de la République, et de son collaborateur d'alors, Thomas Fatom, aujourd'hui directeur de la Sécurité sociale, ainsi que de Thierry Thiot, conseiller d'État, un grand coordinateur du CSIS et l'une des autorités de l'État qu'il est agréable de rencontrer et qui sont l'honneur de notre pays. Vous voyez ce petit monde, hein, on passe voilà, là, mais ça continue. Donc le CSIS est né à l'origine d'échanges entre les représentants du G5, think tank regroupant 5 grands laboratoires français, et des fonctionnaires du ministère de l'Industrie. Alors après, il est très content, le CSIS enfin a résisté à l'affaire Mediator, avec Claude Bouget et Philippe Lamoureux, donc ça c'est des gens des firmes. Nous l'avons soutenu à bout de bras à l'Élysée et à Matignon. Xavier Muscat, Thomas Fatom, Jean Castex, secrétaire général adjoint de l'Élysée, Arnold Munich, conseiller santé du président de la République, nous ont toujours prêté une oreille attentive et ont su préserver la méthode de travail. Voilà, donc ça continue. Voilà, donc le CSIS continue en fait. Hein. Il a été... le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, au mois de novembre 2012, a dit que, bien entendu, le CSIS continuait et donc ils allaient se réunir début 2013. Donc rien n'a changé. Voilà, donc avant que vous puissiez intervenir, une sorte de conclusion. Bon, ce qu'on voit, c'est que le médicament est à la croisée de très nombreuses logiques qui ne vont pas du tout dans le même sens. Hein. Il y a des logiques absolument contradictoires. Il faut être bien conscient des enjeux et des rapports de force. Donc les acteurs n'ont pas le même poids. Les diapos sur lesquelles je viens de terminer, on comprend quoi. On comprend qu'il y a des choses dont on veut bien discuter avec la population. Et puis il y en a d'autres qui se passent à un niveau très très élevé, qui sont pas du tout transparentes. C'est-à-dire que le fonctionnement du comité économique des produits de santé n'est pas transparent. Le CSIS, bien évidemment, il n'est pas transparent, on ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on comprend très bien, c'est que ce qui se discute, ce n'est pas du tout l'équilibre de la Sécu, c'est faire de la France un pays attractif pour les firmes, et pour qu'elles puissent investir, créer de l'emploi, exporter. Voilà, c'est comme ça que ça marche. L'analyse que je fais, c'est qu'il y a... Il y a aussi un compromis tacite. Alors ça, sans doute, ça va provoquer des réactions, des discussions. En France, il y a un compromis tacite, en tout cas, entre les patients, les autorités, les firmes et les politiques, c'est-à-dire tout le monde, pour maintenir la croissance de la facture. De la facture pharmaceutique. Enfin, on peut en discuter, mais franchement, tout à l'heure, au dîner, on disait qu'on ne voyait pas trop la vision... de politique de santé ou de politique du médicament des syndicats français, mais on peut le dire de tout le monde. Ou alors on peut même dire que les syndicats français, en la matière, ils sont pour la défense de l'emploi. Et de toute façon, au temps où FO était à la tête de la Sécu, tout le monde savait que le compromis entre les firmes et FO, c'était d'augmenter la facture pharmaceutique. C'était clair et net. Aujourd'hui, c'est pas aussi officiel que ça, mais... on ne va pas en être très loin. Donc ça, c'est juste pour envoyer un petit peu la responsabilité aux différents acteurs. Moi, j'ai participé aux assises du médicament que Xavier Bertrand avait mis en place. À la revue Prescrit, on était dans différents groupes. J'ai vu des représentants de la sécurité sociale du plus haut niveau. Ils étaient dans ces réunions, ils disaient rien. Il n'avait absolument rien à dire sur le médicament. Ça a été une époque, franchement, au cours des 30 dernières années, où il y avait de réelles opportunités d'infléchir la politique du médicament en France. La sécurité sociale n'avait rien à dire sur le sujet. Voilà, donc, augmenter la facture pharmaceutique, pourquoi pas ? Bah, y a quand même des petits problèmes. C'est qu'en matière de santé, plus, c'est pas toujours mieux. C'est-à-dire, c'est pas parce que... C'est même plutôt le contraire, c'est-à-dire si vous avez une ordonnance de 10 médicaments, c'est juste pour prendre un exemple un peu caricatural, mais ce n'est pas forcément mieux que 5, très souvent ça présente beaucoup d'inconvénients. En tout cas aujourd'hui dans les pays riches, il y a beaucoup de situations où il vaudrait mieux faire un petit peu moins de recours à des technologies médicales et que plus. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des inégalités sociales de santé qui sont croissantes en France. On a vu le taux de remboursement du médicament, mais il y a tout un tas d'autres secteurs où c'est le cas. Donc il y a des problèmes d'accès pour tous aux soins de qualité. Donc il est très important de voir aussi l'inconvénient d'avoir des dépenses dans certains secteurs qui sont incontrôlées. Et puis l'argent dépensé dans le médicament ne l'est pas ailleurs. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, il y a des choses qui sont très mal remboursées. Et puis il y a des dépenses qui, en dehors du secteur de la santé, peuvent avoir des bénéfices en termes de santé tout à fait importants. Hein. Bon, si je prends le saturnisme, qui est un cas particulier, mais on sait très bien que la politique de lutte contre le saturnisme, c'est l'amélioration de l'habitat et des logements. Bon, bah, clairement, il n'y a pas assez d'argent pour ça. Et pour les personnes concernées, c'est là où il faut investir et pas dans des traitements hospitaliers du saturnisme. Voilà, donc pour en savoir plus sur Prescrire, je vous mets l'adresse du site, c'est tout simple, prescrire.org. Voilà, alors c'est pas. Enfin, il y a des informations en accès libre sur ce site. Il y a des informations qui sont tout publiques. La plupart des informations ne sont pas en accès libre et ne sont pas très faciles à lire pour le grand public. Mais ce n'est pas non plus toujours très facile à lire pour les soignants. Rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas soignants. Voilà, merci. Et donc surtout, j'espère que vous allez contester ou compléter ce que je viens de dire. Merci.
Moi, j'aurais une première question, c'est comment expliquer cette inflation sur les prix des médicaments alors qu'on est dans un cadre contraint avec des enveloppes fermées, notamment dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, avec des objectifs fixés par le Parlement. Dans cette enveloppe, est-ce que... les pouvoirs publics en France auraient fait le mauvais choix en privilégiant, donc il y a deux questions, en privilégiant l'innovation et en imposant une baisse des prix sur les médicaments, notamment avec les génériques, qui dégageaient donc une marge de manœuvre pour financer l'innovation.
Je ne sais pas si je peux bien répondre, mais les dépenses de médicaments l'année dernière n'ont pas augmenté. Là, ce que j'ai présenté, c'est des évolutions sur des temps plus longs. Il y a une enveloppe, mais en fait, ce qui se passe, c'est des remaniements à l'intérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire que si on regarde là aussi sur une longue durée, le nombre de firmes pharmaceutiques en France a beaucoup diminué, mais celles qui sont présentes aujourd'hui sont plus grosses. Et donc, il y a des médicaments aujourd'hui de petites firmes qui représentent des dépenses insignifiantes. Par contre, si on regarde la liste des 100 ou des 50 ou des 10 médicaments les plus vendus, cela représente des sommes de plus en plus importantes. Et au niveau mondial, c'est pareil. C'est-à-dire les firmes sont de plus en plus grosses et les chiffres d'affaires sont de plus en plus gros. C'est de plus en plus concentré, en fait. Les 20 firmes les plus importantes du monde aujourd'hui, elles font sans doute pas loin de la moitié du chiffre d'affaires mondial. Il y a 20 ans, c'était absolument pas le cas. Donc on a la constitution d'énormes firmes pharmaceutiques qui sont transnationales, qui ne se considèrent d'aucun pays, qui dans leur rapport de force avec les pays disent « vous m'emmerdez, moi je m'en vais ailleurs ». Et de toute façon, elles sont très grosses, c'est-à-dire que Sanofi... PDG de Sanofi s'amuse même pas à aller voir Renaudin, le patron du CPS. Ça va directement à l'Elysée des PDG de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que peut faire un gouvernement face à une de ses plus grosses firmes du CAC 40 ? Voilà. Donc, le rapport de force, il est de plus en plus déséquilibré. Donc, effectivement, l'enveloppe, elle est là. Mais donc, c'est les remaniements à l'intérieur qui sont importants. C'est aussi la facture hospitalière qui est hors enveloppe et qui a augmenté beaucoup. Voilà. Alors les baisses de prix sur les génériques, le générique en France, il est très très peu par rapport aux pays européens ou aux États-Unis. Le marché des génériques, même s'il a beaucoup augmenté en France, il est faible en fait. Et notamment parce que les médecins, les prescripteurs français prescrivent beaucoup plus que leurs homologues d'autres pays des médicaments récents sous brevet. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet structure. En France, il y a trois éléments dans la facture pharmaceutique. Il y a l'effet volume, c'est le nombre de boîtes. Donc la France, on est champion du monde. Il y a l'effet prix. La France n'est pas un pays où les médicaments sont particulièrement chers, mais il est maintenant dans la moyenne européenne. Et il y a l'effet structure. Et c'est ça qui, en France, pose problème. C'est-à-dire que les prescripteurs vendent des médicaments récents, donc qui ne sont pas génériquables. Voilà, c'est ça le souci. Et les pouvoirs publics, ils ont un peu de difficulté avec ça, parce que baisser les volumes, même l'affaire Mediator n'a pas beaucoup baissé les volumes de consommation des médicaments en France, un petit peu. Bon, l'effet structure, il est toujours là. Donc c'est sûr que même si les pouvoirs publics voulaient intervenir, même si vous voulez intervenir dans ce secteur, c'est pas très très, il faut reconnaître que c'est pas très facile. pas très facile parce que ni les patients ni les soignants non plus ont vraiment envie de changer leurs habitudes, hein, tout simplement. Il n'y a pas que les firmes. Il y a des fortes demandes des soignants et des patients pour ce que je disais, hein, qui alimentent la machine économique.
Souligner, les pharmaciens le déplorent, les industries pharmaceutiques le déplorent, mais le nombre de médicaments par ordonnance a baissé de 30%. C'est pas mal en 4-5 ans. Les génériques n'arrêtent pas de progresser. L'effet structure, c'est pas tout à fait vrai pour les prescripteurs parce que les médicaments qu'on prescrit, de toute façon, ils sont tombés tous pratiquement dans le domaine public. Pour un médecin généraliste, hein, pratiquement tout est déjà génériqué. Donc, bon, évidemment, ils vont nous faire plus de pression sur les nouveaux produits qui vont sortir, les Pradaxa et autres, qui ne sortent pas bien d'ailleurs. Mais donc, il y a eu quand même un gros effort. Donc, il ne faut pas. On bat notre couple. Hein. Par contre, moi, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, et c'est qu'on a vu plusieurs articles récemment, dont Le Monde, sur la fabrication des médicaments en Inde et en Chine, où on a vu que 80% des médicaments qui étaient distribués sont fabriqués là-bas. Et vous avez dit tout à l'heure, le pharmacien est garant d'une sécurité. Et je me dis, ça devrait permettre peut-être de faire baisser les prix des médicaments. Ça devrait nous amener à des perspectives tout à fait autres sur le coût. Par contre, ça nous fait très peur pour la sécurité. Et donc, l'Europe et la France a été essayer de voir un peu dans ces usines en Chine et en Inde. Et ils ont pu contrôler qu'à peine 10% des usines, parce qu'il y en a partout, ils ne savent pas où elles sont. Et donc ça fait très peur. Je voudrais savoir ce que le pharmacien, ce que vous en pensez sur le coût des médicaments.
Je donnerai la parole aussi à Daniel. Moi, je ne suis pas pharmacien. Hein. Enfin, je suis pharmacien, je ne suis pas pharmacien, mais disons que à prescrire, on travaille en collectif. Donc on est plus de 100 médecins et pharmaciens et on travaille nos articles. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont travaillé sur chaque article. Alors donc sur les médecins généralistes, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, c'est caricatural ce que j'ai dit. Il y a toutes sortes de médecins. Il y en a effectivement. Enfin, il y a un grand différentiel de comportement des médecins. La stratégie des firmes, elle a changé au cours des dernières années. Elle est en train de changer beaucoup. Elle est beaucoup plus. Enfin, on voit au niveau du marketing, c'est les spécialistes maintenant qui sont. Enfin, elle a changé. Déjà, elle a utilisé l'hôpital pour avoir des prix libres. Elle a eu toute une stratégie, les pouvoirs publics ont mis du temps à s'apercevoir de la manip, mais de commencer à vendre un médicament à l'hôpital et puis après de continuer en ville, ça permet d'avoir des prix particulièrement élevés parce qu'on squeeze le CEPS, Comité économique des produits de santé. Et l'autre stratégie, c'est de promouvoir les médicaments auprès des spécialistes parce que les généralistes ont beaucoup de difficultés après à modifier la prescription. Donc ça, c'est une stratégie marketing délibérée, ce qui explique pourquoi les firmes ont, enfin, ce qui permet de comprendre pourquoi les firmes ont diminué leur nombre de visiteurs médicaux. Elles n'ont pas du tout diminué leur effort promotionnel. Simplement, il y a moins de spécialistes que de médecins généralistes. Donc actuellement, c'est comme ça. Et effectivement, enfin, quand on regarde ce qui est mis sur le marché aujourd'hui, il y a très peu de médicaments de médecine générale. Donc c'est des médicaments plus ou moins spécialisés. En plus, les pouvoirs publics, pour essayer de contrôler passe par des systèmes de prescription réservés ou à des spécialistes ou hospitalières. C'est très souvent purement de la régulation économique. Il n'y a pas forcément de logique thérapeutique derrière, mais bon. Donc, c'est ces médicaments-là qui tirent le marché parce qu'on a des prix qui sont énormes. C'est-à-dire, quand vous vendez des médicaments à des milliers ou des dizaines de milliers d'euros par an, vous n'avez pas besoin de vendre autant de boîtes que quand vous étiez à des dizaines d'euros ou des centaines d'euros. Donc ça a complètement changé. Donc effectivement, même si... alors par ailleurs, le fait d'avoir un nombre de lignes qui a baissé sur la prescription, ce qui compte, c'est le prix global de la prescription. Mais en tout cas, même si certains médecins généralistes ont des prescriptions qui sont très, très bien... et du point de vue thérapeutique et du point de vue économie. De toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, enfin, le marché, il est tiré par autre chose. Hein, donc ça limite malheureusement cet effet vertueux. Et aujourd'hui, enfin, on voit aujourd'hui une stratégie de remplacement des anticoagulants classiques par une nouvelle classe. C'est du pur marketing. Hein. C'est les cardiologues, ils reçoivent des visiteurs médicaux à longueur de journée et ils sont en train de changer complètement les traitements des patients, y compris de ceux qui étaient parfaitement équilibrés. Enfin, c'est de la folie. Hein. Ça coûtera très cher en problèmes de santé et pour la Sécu, parce que les analystes financiers estiment que cette classe de médicaments, ça va être dans les tops de vente des 20 prochaines années. Hein. Donc, ils vont mettre de l'argent dans le marketing. Alors, un des signes, et je pense que là-dessus, Daniel pourra intervenir, la production de matières premières pharmaceutiques en Inde et en Chine, en France, on découvre ça aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça existe. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Inde a plus de docteurs en chimie que le reste de la planète. L'Inde et la Chine sont capables du meilleur comme du pire. Hein. Mais voilà, donc le meilleur, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est des pays qui savent envoyer des satellites dans l'espace, c'est des pays qui font de la recherche de pointe. Ils ont les compétences pour ça, ils ont les PhD qu'il faut, ils les ont formés dans les universités du monde entier, ils ont des prix Nobel dans ces domaines. Donc voilà, alors, il y a aussi effectivement des gens qui font n'importe quoi. Mais ça se trace, c'est-à-dire dire qu'on ne sait pas d'où viennent les matières premières des médicaments qui sont vendus en France, c'est faux. Bien sûr, il peut y avoir une fraude, hein. Il y a des gens qui fraudent, on le sait. Bon. Mais en fait, c'est faux, c'est-à-dire, sauf fraude, mais massive, c'est-à-dire qu'il y a quand même des inspecteurs de la pharmacie qui inspectent les usines où sont censés être produits les médicaments. Alors, peut-être qu'ils fraudent comme PIP pour les prothèses. Mais c'est un secteur qui est beaucoup moins contrôlé, comme le dit Daniel, que le médicament. Ça n'a rien à voir. Je prends l'exemple de MSF. Ça fait très longtemps que MSF achète ses médicaments dans des pays comme l'Inde, mais pas n'importe quelle firme et pas n'importe quelle usine. C'est-à-dire, on sait très bien que quand on achetait du médicament à Cipla, des génériques, on disait on veut que ça soit fait dans telle usine. Et ça, on le savait parce que MSF avait envoyé des pharmaciens inspecter les différentes usines. On disait, on veut celle-là, parce que celle-là, elle est au niveau international, alors que la même firme, elle a un autre site qui n'est pas à ce niveau-là. C'est à la portée de n'importe quelle agence, et les agences le font. Donc, c'est un peu bizarre, cette polémique sur les génériques, parce qu'en plus, ça n'a rien à voir avec les génériques, c'est-à-dire les matières premières des médicaments sous brevet, elles sont faites aussi en Inde et en Chine, en grande partie. Donc ça n'a rien à voir avec les génériques. Il y a une confusion terrible depuis qu'il y a eu un rapport de l'Académie de médecine fait par Dr Menkes. Dr Menkes, il a eu sa nièce ou sa petite-fille, je ne sais plus, qui a eu un problème qu'elle a imputé à un médicament générique. Je vous le dis comme ça, ça vous paraît complètement ridicule, mais c'est seulement ça. Et l'Académie de médecine, ils font des rapports, il y a un type qui écrit un machin, et après il y a le tampon de l'Académie de médecine. Donc, c'est un tissu d'ânerie, si vous voulez, le rapport de l'Académie de médecine. Il y a eu tout un tas d'autres contre-rapports qui ont été faits par différents organismes en disant que c'était un tissu de conneries. Mais les journaux ont repris ça par un effet assez intéressant, c'est que, à juste raison, le scandale Mediator a attiré l'intérêt des journalistes non spécialisés dans ce secteur. Et donc, maintenant, ils voient des scandales partout. Et ça explique la moitié du phénomène qui sort actuellement, de dire « Oh là là, le générique, c'est terrible ». Sauveur Boucris, qui vient d'écrire un médicament sur le générique, il n'y connaît rien à ça. Sauveur Boucris, il connaît un certain nombre de domaines de la médecine, mais sur les génériques, il n'y connaît rien. C'est assez étonnant. Donc, oui, il faut contrôler ça. Oui, il y a des gens... il faut vraiment le contrôler, il faut le tracer. Mais c'est tout. Alors, je vais vous donner juste un dernier exemple et puis je donne la parole à Daniel. La firme GlaxoSmithKline, qui est elle est dans les 2-3 premières du monde, hein, elle a été condamnée il y a 2 ans aux États-Unis à payer une amende de $750 millions parce que dans son usine principale de production, cette firme ne respectait pas les bonnes pratiques de fabrication depuis des années. C'est-à-dire que le problème avait été repéré plusieurs années lors d'inspections et ils avaient chargé quelqu'un dans cette usine de veiller à la qualité, à l'amélioration de la qualité. Et cette personne, au bout de quelques années, elle est partie, elle a dit « ils n'en ont rien à foutre ». Donc ça, c'est ça qui a déclenché les 750 millions. Mais c'était n'importe quoi. Par exemple, il n'était pas capable d'assurer la stérilité de produits injectables. Il y avait des produits de forme orale qui sortaient où il y avait de la contamination des productions précédentes. Ils stockaient les médicaments finis dans des camionnettes dehors. La liste est absolument invraisemblable. C'était fait dans l'usine des États-Unis, de la deuxième plus grande firme mondiale. Donc quand ces gens-là disent « Oh là là, méfiez-vous des Indiens et des Chinois », ouais, méfions-nous de tout le monde. Hein.
Oui, oui. Quelques précisions. Juste. En ce qui concerne les matières premières, il faut distinguer les matières premières et les médicaments. Parce que les matières premières, quand on les reçoit dans un établissement de fabrication en France, le laboratoire de contrôle est tenu de faire, d'éliminer tous les produits qui ne sont pas conformes. Et pour ce que j'en connais, en général, ça marche pas mal. Ensuite, la fabrication des médicaments, qu'ils soient génériques ou princeps, à l'étranger, soit il y a des accords de reconnaissance mutuelle entre les inspections, et ce sont les inspections du pays qui, pour le compte de la France, inspectent l'établissement, c'est souvent dans les pays industrialisés occidentaux, mais pour des pays comme la Turquie, la Chine, l'Inde, tous les médicaments qui sont fabriqués là-bas sont contrôlés par l'agence française, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et les génériques sont contrôlés de la même façon que les médicaments princeps. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des failles, mais a priori, ces fabricants, où qu'ils se trouvent, en France ou à l'étranger, sont contrôlés de la même façon, du moment que le produit est mis sur le marché en France. En ce qui concerne le volume des laboratoires, c'est vrai que du point de vue, je reviens un petit peu sur le point de l'histoire, dans les années 70, on avait des centaines de laboratoires. Et la France était troisième mondiale au niveau de l'industrie pharmaceutique. Enfin, on était à ce niveau-là. Or, bon, on a beaucoup reculé. Et puis, il n'y a plus des centaines de laboratoires. Et si on pense à Klein Midi, à des petits labos comme ça, c'est réuni dans un grand ensemble. Sanofi Saint-Elabo, puis Sanofi Aventis. Bon. Mais Pfizer, c'est le chiffre d'affaires de Pfizer, c'est le budget de la Belgique. Donc c'est évident que ces gens-là ont un poids économique, un poids sur les pouvoirs publics de la plupart des pays considérable, qui permet d'influencer la politique de fixation des prix, c'est sûr. Mais alors, la France, est-ce qu'elle a fait le bon choix? La France a choisi donc de favoriser l'innovation thérapeutique et la recherche de nouveaux médicaments pour les maladies orphelines, ce qui explique, enfin c'est comme ça que l'expliquent les industriels et les pouvoirs publics, c'est on va favoriser donc la recherche de médicaments pour les maladies orphelines qui touchent 3000 personnes, 4000 personnes. Et c'est vrai que peut-être si on ne faisait pas ce choix, on n'aurait pas de recherche dans ce domaine. Qu'en pensez-vous?
Oui, oui, ça c'est sûr. Mais donc en fait, il y a eu les médicaments orphelins. Donc c'est des médicaments qui sont, on les appelle orphelins parce que ça voulait dire que c'est les firmes, enfin personne s'y intéressait. C'est pour des maladies rares. Donc la première politique d'incitation à la recherche pour les maladies rares, ça a été aux États-Unis. Après, il y en a eu à Singapour, en Australie, etc. Et puis en Europe. Donc ça fait, je crois que c'est 93, enfin je ne sais plus, ça date déjà un petit peu. Et donc ça a transformé un marché qui n'était pas intéressant en un marché lucratif dans un secteur particulier qui est donc des médicaments à petite quantité, hein, parce qu'il y a une définition des maladies rares. Alors c'est un pour 2000, je crois. Ce n'est pas si rare que ça en fait. C'est-à-dire que le sida est resté longtemps une maladie rare. Et ça veut dire que les nouveaux anticancéreux, les firmes, maintenant, elles découpent les indications de façon à bénéficier du statut de médicament orphelin pour chacun. Donc c'est astucieux. Voilà, donc c'est un détournement du système, mais qui est assez massif. Et puis il y a des vraies recherches pour maladies rares, donc qui apportent des bénéfices souvent extrêmement importants pour les malades concernés. Bon, mais vu du point de vue français, on a une vision un peu biaisée de ça, c'est-à-dire qu'en France, ils sont pris en charge. Tout à l'heure, j'ai parlé de 300 000 euros, c'est pris en charge. Il y a un rapport de la Commission européenne il y a quelques années pour savoir comment ça marchait au niveau européen. Il y a des pays en Europe où ces médicaments-là, ils ne sont pas vendus du tout. C'est-à-dire que les patients dans ces pays, à 300 000 euros, peanuts, pas question. Voilà. Et puis le Royaume-Uni, depuis 2 ans, là, commence à dire, les Français commencent à nous énerver, parce qu'en fait, ils ont une politique de médicaments orphelins qui alimente toute une industrie française. Effectivement, ils trouvent des médicaments, mais personne ne peut se les acheter. Voilà, donc c'est la limite du système. Ce n'est pas non plus optimal du point de vue économique, parce que les Français, les firmes qui mettent sur le marché des médicaments orphelins, en fait, ils ont un marché européen qui est la France, plus quelques autres pays. Hein, donc ce n'est pas satisfaisant ni du point de vue des patients, bien entendu, et du point de vue économique. Bon, quand c'est des petites boîtes, elles s'en foutent, hein, parce qu'avec ces sommes-là, elles vivent tranquillement. Elles ne sont pas incitées, en fait, à partir du moment où elles gagnent suffisamment d'argent sur le marché hyper lucratif de la France, elles ne sont pas très incitées à faire des efforts pour baisser leur prix pour le vendre ailleurs. Donc c'est à la fois une réussite et un gros échec. C'est les deux, quoi. C'est dommage. Alors, vous ne voulez pas parler de Cahuzac ? Non, il y avait 2 pages dans le Parisien aujourd'hui. Bon, ils ont trouvé 3 médicaments pour lesquels Cahuzac aurait donné un coup de pouce pour des prix plus élevés en particulier. C'était ça. Comment ? Oui, les médecins. Bon, les médecins, mais chirurgien capilliculteur.
Enfin, c'était un cardiologue au début.
Oui, mais il pratiquait quoi ?
Il a fait des études de chirurgien vasculaire. Après, il a arrêté et il s'est installé dans une clinique de... Mais quand même, il était près du peuple parce que la presse nous a appris récemment, vous avez dû lire un petit ami médecin, que depuis 1997, il était inscrit comme médecin généraliste dans le cabinet de sa femme qui était dermatologue, médecin généraliste qu'il n'était pas du tout. Et ça lui permettait de cotiser à la caisse de retraite à bas coût. Donc c'était quand même quelqu'un d'assez près du peuple, et je suis content qu'il cotise à la même caisse que moi.
Il connaissait bien le système.
Et il était à l'époque député, et après à la commission du Sénat, et il cotisait comme généraliste, et ça n'a choqué personne, ni la caisse de retraite, ni le conseil de l'ordre. Ni
voilà. Non, non.
Donc comme quoi, il savait passer ses billes à Singapour, mais aussi
du moment qu'il cotisait.
Donc dans cet article, il parle d'une boîte de communication qui s'appelle, d'ailleurs je ne sais plus, PR International, je ne sais pas ce que ça veut dire, PR, presse, enfin je ne sais pas. Donc qui est une boîte de lobbying qui s'appelle du lobbying d'influence en fait. Ce qu'il faisait, il s'appelait Daniel Vial, il faisait se rencontrer les firmes, les responsables de la Sécu, les responsables des agences, les responsables du ministère de la Santé, en particulier dans une université d'été qui se passait à Lourmarin, qui est une ville charmante, dans un endroit extraordinaire. Voilà. Donc ils passaient quelques jours ensemble. Et donc ça, c'est des lieux de connivence. Hein. Donc, quand il y a eu le scandale Mediator, ils ont supprimé au moins 1 an cet endroit-là, parce que ça faisait un peu désordre. On avait les conflits d'intérêts étaient sortis. Voilà. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble, ces gens-là ? Voilà, et donc l'année dernière, plus discrètement, ils l'ont fait à Strasbourg. Donc ça a recommencé. Et là, je pense qu'avec l'affaire Cahuzac, où ça permet entre autres de dévoiler tous ces mécanismes d'influence, parce que finalement, après, les gens, ils se connaissent. On voit que Donc à Uzac, il avait organisé une espèce de recherche, soi-disant, dans sa ville, à Villeneuve-sur-Lot, financée par une firme pharmaceutique. Et donc il avait fait un grand raout pour inaugurer ce truc-là. Et donc la firme avait transporté plein de gens dans un jet privé à cet endroit-là. Mais donc il y avait le président de l'Ordre des pharmaciens, enfin, il y avait toutes les huiles étaient là-dedans. Donc ils ont pris des habitudes comme ça. Voilà, c'est comme ça, ça se fait, voilà. Donc peut-être que ça va devenir un peu plus difficile si les journalistes commencent à rechercher, parce que là je pense qu'ils doivent être assez surpris, les gens, d'avoir vu l'article c'est des trucs qui sont passés il y a très longtemps et ils ont retrouvé des photos. Je pense que c'est bien de, tout à l'heure je disais que tout ça c'est opaque, je pense que c'est bien de mettre un petit peu de lumière pour empêcher un certain nombre de relations comme ça qui ne se font pas dans le sens de l'intérêt général. Alors, Cahuzac, c'est caricatural parce qu'il l'a mis dans sa poche, mais il y a d'autres cas où c'est des détournements d'argent public à des endroits où ce n'est pas conçu pour être là, quoi. Alors, après, on se dit, la Sécu, elle a un déficit, oui, mais des fois, l'argent, il passe à des endroits bizarres, quoi. Ah, malheureusement, c'est ça. Hein. Y a des trucs très bien, puis il y a des grosses bêtises, quoi. Donc, c'est très embêtant. Donc, dans le numéro qui vient de prescrire, on a fait un livre pour vous en disant que c'était un livre qui n'était pas assez fiable pour être utile. Vous voyez, on a retourné un peu le... C'est-à-dire... Ça doit être le suivant. Donc, c'est regrettable. Il y a des choses intéressantes, en particulier sur le système. Enfin, des choses, comme je viens de vous dire, ça peut être dans leur bouquin. Par contre, comme ça prétend être aussi un guide sur les bons médicaments et pas les bons médicaments, nous, à Prescrire, on estime qu'on n'a pas droit à l'erreur là-dedans. Or, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment très dommage. C'est une occasion ratée. Mais tous les deux, ils n'avaient pas les moyens de faire un bon bouquin. C'est-à-dire, Debré, il ne connaît absolument rien aux médicaments. Even, il dit qu'il a 50 000 références. Oui, ça doit être dans des cartons. Monsieur, là, il a 50 000 revues de pêche. Voilà, c'est une référence sur la pêche. Mais bon, s'il dit une bêtise sur la pêche, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Alors que sur le médicament, il y a mort de poisson, c'est vrai. Bon, en tout cas, ce bouquin, c'est pas le bon guide grand public que le public mérite, quoi. Donc ça, c'est vraiment gênant. Mais on ne peut pas faire ce bouquin tout seul. Je vous dis, nous, on est plus de 100 médecins et pharmaciens à prescrire. Ça sort pas de nos... Et puis, on a une source de documentaires actualisés qui est extraordinaire. On a un gros budget de documentation, on a plein de documentalistes. Eux, ils font ça en quelques mois tout seuls à partir des bouquins qui sont derrière, mais qu'ils n'ont pas relus. Il n'y a aucune référence précise. Donc, c'est gênant. Alors bon, ça a été facile des gens qui ont critiqué Even de dire oui, il avait présenté la cyclosporine comme médicament contre le sida. Il a dit des grosses conneries dans sa vie, quoi. Voilà. Et Debré, aujourd'hui, qui est un des grands pourfendeurs des firmes pharmaceutiques, il est réputé être allé à la chasse en Afrique payé par des firmes. Donc... Bon, la chasse en Afrique, ils ne le savent probablement pas. C'est peut-être pas facile à documenter. Et les pauvres médias, en fait... Alors, je vais vous raconter, ces pauvres médias, la plupart qui écrivent sur les médicaments, ils y connaissent rien du tout.
L'opinion publique est modifiée par ce qu'ils disent. C'est ça qui est dommage.
Donc, il y a... Donc l'affaire Mediator a mis sur le secteur de l'information des journalistes qui n'étaient pas familiers avec ça. Et pour une partie, c'était très bien, parce que les journalistes habituels qui parlaient de la santé, ils étaient trop familiers du système. Donc tout le monde se tenait par la barbichette et ils critiquaient pas trop le système, ni les médicaments, etc. Donc c'était très bien d'avoir l'entrée de nouveaux, y compris de journalistes d'investigation. Il y en a qui ont trouvé des trucs super, quoi. Je ne sais pas pourquoi, Le Figaro a tellement bien travaillé sur Mediator, mais franchement, ils ont fait un super boulot sur Mediator et contre Servier. Enfin bon. Donc il y a des trucs, TF1 aussi, on a été Paris Match, enfin, des journaux inimaginables qui ont fait des très bons trucs. Bon. Mais il y en a qui ont écrit des conneries, qui continuent d'écrire des conneries. C'est pas la faute des journalistes, c'est la faute de l'économie des journaux. C'est-à-dire, c'est des journalistes à bas prix. C'est des journalistes. Ils n'ont pas fait d'études de rien du tout. Donc, ce qu'ils ont appris à faire, c'est demander leur avis à des experts. Alors, bon, après, ils peuvent tomber sur n'importe qui hein, comme experts. Mais auparavant, ils étaient très, très freinés par leur rédacteur en chef qui disait « Ouh là là, surtout critique pas les médicaments parce qu'on va se prendre un procès ». C'est sûr que l'affaire Mediator a ouvert la possibilité de raconter des conneries sur les médicaments dans les journaux grand public sans la peur du procès parce que les firmes actuellement font un peu gaffe. Mais ça va revenir. Dès qu'il y aura une grosse connerie, il y aura un procès, puis ça, tout va se refermer. Ce sera dommage. Mais bon, voilà, pourquoi les journaux, ils n'investissent pas assez je m'occupe aussi des relations avec la presse, donc j'ai des contacts avec plein de journalistes. Il y en a très peu qui ont du temps, en particulier de lire, parce qu'ils me disent « c'est quoi votre opinion ?» Je dis « mais j'ai pas d'opinion ». Nous, on a décrit des articles, donc je vais vous donner des articles. Voilà, donc il y en a, ils vont lire les articles, et puis je dis « puis vous revenez après, pour avoir une discussion un peu plus sérieuse ». Mais il y en a qui n'ont pas le temps de faire ça, ou qui s'en foutent, ou qui ne peuvent pas comprendre. Alors on les a sélectionnés, maintenant ceux qui viennent, ils savent qu'il va falloir qu'ils bossent. Mais... bon, il faudra voir ce que ça donne d'ici quelques temps. Globalement, je considère que c'est encore très positif ce qui s'est passé, parce que la parole s'est libérée. Mais franchement, il y a à boire et à manger. Et puis, le bouquin d'Even, ça en fait partie. Quoi. Oui. Absolument, c'est embêtant. Bah, c'est ce que je viens de dire sur le générique. Voilà. Et sur les statines, le bouquin d'Even, c'est pareil, c'est trop global ce qu'il a dit. Donc, c'est faux. Il y a des trucs vrais et il y a des trucs faux. Donc, c'est embêtant. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ?
C'est pas grave qu'il y ait du doute, on a tous le doute. Le médecin, il sait pas tout. Voilà, le journaliste, il peut pas. Même le médecin, il a du mal à comprendre, même il se tient au courant. Il faut être hyper pointu. Il y a des statistiques, il y a des indices d'amélioration en fonction de placebo, non infériorité, ça demande être excessivement pointu. Un journaliste, il ne peut pas. Donc, c'est des gens que formés ou des gens qui sont à prescrire. Prescrire avant, c'était maudit. Maintenant, dès qu'on ouvre même le Figaro, on voit prescrire la liste des médicaments non conseillés. C'est extraordinaire. Prescrire explose. Hein. Regardez-les. À mon avis,
alors, justement, pour. En lien avec ce que vous disiez, là, je ne sais pas si cet article est accessible gratuitement, mais il y avait un excellent article de la revue Prescrire en mars 2012, dont le titre était « Les leaders d'opinion, instruments marketing des firmes ». Moi, j'avais regardé, j'avais lu cet article, et puis notamment un paragraphe intitulé « Influencer les institutions ». Je crois que c'est très instructif. L'essentiel, c'est que c'est qu'on sache... qui influence qui et qu'on ait un petit peu un regard critique sur tout ce qui se produit. Parce que je repense à l'histoire du Mediator. J'ai exercé la pharmacie à une époque où il y avait un produit qui s'appelait Pondéral, fenfluramine. Il y avait la forme Lévogir, donc qui détourne la lumière à gauche pour parler simple, et puis la molécule, la forme Dextrogir, qui détourne la lumière vers la droite. Bon, je schématise un peu, mais... Et puis... on a trouvé un médicament qui s'appelait l'isoméride. Bon, ça restait un dérivé amphétaminique, mais les laboratoires ont réussi à présenter ça comme... moi, j'ai connu des médecins qui m'ont dit « Mais non, il n'y a plus les effets secondaires des dérivés amphétaminiques. » Mais non, 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 non. Et puis, ce médicament a été retiré en catastrophe parce que la pharmacovigilance qui montait en puissance à l'époque a mis en évidence des décès, des effets indésirables graves avec cette molécule. Et le Mediator, qu'est-ce que c'est ? C'est un sous-produit de l'isoméride. Donc, si on avait gardé un regard critique sur la chimie de ce produit, je pense qu'on aurait évité pas mal de dégâts.
Et alors, j'en profite pour dire que la vigilance de tous s'impose par rapport aux médicaments. Mais et les derniers textes, parmi les derniers textes qui sont sortis, il y en a un que je trouve très intéressant, c'est que vous avez toute personne... Avant, c'était les professionnels de santé qui étaient tenus de déclarer les effets indésirables des médicaments liés à un médicament. Aujourd'hui, depuis... alors, je ne sais plus si c'est fin 2011 ou 2012, il y a eu tellement de textes maintenant, mais... Toute personne, vous pouvez aller sur le site de l'AFSAPS, vous avez un formulaire de déclaration d'effets indésirables liés à la prise d'un médicament, déclaration par le patient. Vous avez d'autres formulaires pour déclaration par professionnel de santé, etc. Mais il faut savoir que toute personne, aujourd'hui, peut déclarer. Et l'intérêt, c'est de se dire, c'est pas un événement accidentel, il faut déclarer parce que plus on déclare massivement et rapidement, et plus ce médicament verra son AMM modifié, des précautions seront prises, voire il sera retiré plus rapidement et il y aura moins de dégâts dans la population. Donc je tenais à signaler ce fait qui n'est pas tellement connu.
Et puis on aura aussi des notices dans les médicaments qui seront de plus en plus longues, parce qu'on aura tous les effets possibles.
Non, ça c'est déjà le cas.
Donc ça c'est une... Cette liste-là, ça permet aux firmes de se protéger contre des procès, en fait. Ça ne sert que à ça. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est mentionné dedans, s'il y a un problème, c'est la solidarité nationale qui va prendre en charge les problèmes et ce n'est pas la firme. Donc, et en fait, ces listes, elles sont impraticables parce que d'abord, personne n'a envie de les lire, elles sont trop longues. Et de toute façon, c'est pas trié. Et puis on se dit, bah, de toute façon, oui, je vais avoir forcément ça. Donc ça noie le poisson complètement. En plus, il y a des mots qui sont incompréhensibles. De toute façon, une fois qu'on a lu, on n'est pas plus avancé que ça.
Je reviens à mon histoire de livre, quand même, parce que je reste un peu sur ma faim. Il y avait un politicien célèbre qui s'appelait Georges Marchais qui disait, c'est globalement positif ou globalement négatif. Vous le considérez comme ça.
Globalement positif, mais c'est très dommage que ça ne soit pas totalement positif. C'est très embêtant, quoi.
Je
parce
crois que ça
que
ne tire pas la cause.
Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire un livre critique. Avant, il y avait le Pradal. Je ne sais pas si vous avez connu le Pradal. C'était bien le Pradal. Bon, c'est quand même incroyable de voir que. Bon, il y a le bouquin de Giroux qui est pas mal, un pharmacologue. Déjà, je vois que personne ne le connaît. Bon, mais c'est quand même terrible de voir qu'en France, finalement, il n'y a pas un bouquin critique sur les médicaments grand public. Les arrivants, voilà, mais dans un domaine très particulier, enfin, seulement dans un domaine thérapeutique. Et puis il est mort et donc il n'est plus là. Et donc, en fait, voilà, il n'y a même pas un bouquin de qualité d'information critique sur les médicaments en France. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas dans tous les autres pays européens. Hein. C'est lamentable d'en être à ce niveau-là. Il y en a un qui sort, on peut se dire, ouais, ça va être super, enfin, on va avoir quelque chose. Il y a des trucs un peu rédhibitoires, c'est dommage. Donc même si c'est globalement positif en tant qu'initiative, et parce qu'il y a une partie qui est importante à connaître, et c'est bien d'avoir utilisé ça, c'est dommage qu'il ne soit pas donné les moyens de faire un bouquin où il n'y avait rien à redire.
Plus de rigueur.
C'est ça qui est terrible, quoi. Donc c'est décevant.
Vous dites que dans des pays étrangers, ce genre de bouquin existe et de bien meilleure qualité.
Oui, oui. Pourquoi on ne le traduit pas ? Ah ben c'est une bonne question. Alors dans le British Medical Journal, qui est une des grandes revues médicales, ils ont écrit il y a quelques semaines, ou mois peut-être, c'est la fin de l'histoire d'amour des Français avec les médicaments. Et malheureusement, non.
Non, mais j'ai une question sur un autre sujet, là. Sur les génériques. Oui. C'est parce que j'ai entendu une chose, c'est que les génériques, il y a des médecins qui disent que si on a des génériques, si on prend des génériques ou des médicaments non génériques, on est moins bien soigné avec des génériques qu'avec des non. Alors quand ils remplacent ce qu'ils ont par des génériques, ils ont des moins bons résultats. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui disent que c'est mieux de prendre des génériques parce que c'est moins cher. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, on n'a pas le choix, mais.
Donc ça, c'est franco-français aussi, c'est-à-dire que aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout.
C'est des médecins qui disent ça.
Tout le monde mange des génériques et les médecins, ils n'osent pas dire des âneries pareilles. C'est des âneries, c'est-à-dire il n'y a aucune étude qui le prouve. Alors là. Alors, ils peuvent être de bonne foi. Hein. Bon, d'abord, ils n'ont pas été formés à ça sérieusement dans leurs études. Donc, c'est bon. Et dans ce cas-là, il ferait mieux d'être un peu prudent. Mais quand on regarde les effets après la prise d'un médicament, quand on regarde ce qui se passe chez le patient, c'est très difficile d'interpréter ce qui se passe. C'est-à-dire de faire un lien, y compris un lien de causalité entre un effet observé et la prise du médicament. Donc c'est la difficulté de l'effet indésirable, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les patients peuvent notifier quelque chose qu'ils ont observé. Mais ce n'est pas parce qu'on a observé quelque chose et on va le déclarer, mais ça ne va pas être pris comme ça, en disant, ah ben voilà, cette personne, elle a eu telle réaction, donc on va écrire dans la notice telle réaction. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une étude, ça s'appelle l'imputabilité, pour savoir si effectivement il y a un lien de causalité entre cet effet et la prise du médicament. Et là, il y a beaucoup de surprises, parce qu'il y a beaucoup d'effets qui ne sont pas imputables. C'est exactement ce qui se passe avec les génériques. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la plupart des cas, hein, parce que ça peut être un excipient qui est différent et qui a un effet, mais ça, c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire, si on commence le traitement avec un générique, première prescription en générique, et vous passez au médicament Princeps, ben vous pouvez avoir le même phénomène. Vous n'avez pas le même excipient, donc la personne, elle va réagir différemment. Donc, ce qui est en cause, c'est la substitution d'un médicament par un autre, qui n'a pas été fabriqué pareil, mais ça marche dans les deux sens. Donc, ce n'est pas un défaut particulier des génériques. Et donc, quand un patient ou un soignant dit ce générique ne marche pas, c'est pas le générique qui marche pas, c'est le médicament qui marche pas ou il y a quelque chose en cours, mais il y a aucune étude dans aucun pays aujourd'hui qui a pu montrer de façon sérieuse qu'il y avait une différence de qualité avec le générique. Ça c'est pas vrai.
Sur la qualité, je suis entièrement d'accord. Il y a quelques médicaments, bon, maintenant, qui sont clairement identifiés. Je pense à des antiépileptiques, qu'on dit à faible marge thérapeutique. Ce sont des médicaments très actifs. Alors, c'est sur le site de l'agence du médicament, vous pouvez y aller, ça a été traité, ce problème. Si vous avez commencé avec le Princeps, il ne faut pas changer parce qu'une petite infime variation va entraîner une modification d'activité chez le sujet. Si vous commencez avec le générique, il faut rester avec le générique. Il faut pas changer, mais ça concerne des quelques médicaments qui sont bien identifiés et autrement, comme disait Monsieur Chirac, la qualité et la sécurité de ces produits, elle est identique.
Donc à prescrire, nous on a publié sur le sujet effectivement la liste des cas où il ne faut pas substituer ni dans un sens ni dans l'autre, et puis on estime que notamment pour des personnes âgées ou des personnes qui ont un peu de mal à identifier leurs médicaments, cette situation, il ne faut pas substituer, parce qu'il ne faut pas mettre la personne en difficulté. Mais en dehors de ces cas-là, qu'il faut prendre sérieusement, hein, il n'y a pas de problème particulier avec ces médicaments.
Alors que j'ai marqué un générique qui se retrouve avec le Princeps. Et donc la dame me dit, bah non, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas. Donc ça, c'est vrai que si les pharmaciens ou l'industrie pharmaceutique, etc., on n'est pas capable, on va, avec l'importance des personnes âgées, le nombre de personnes qui ont des démences, ça, c'est un vrai, vrai problème. Oui. Il y a une autre chose qu'on a tout à fait tous sous-estimé, c'est que quand on donnait un comprimé bleu à votre fille qui a fait une épilepsie, au lendemain, votre médecin il donne l'air très assuré, vous dit non, la gélule orange, ça sera aussi bien. Et bien, on introduit dans la tête des gens des choses excessivement compliquées. Et personne n'y avait compris, ni avait envisagé, ni les pharmaciens, ni moi en tant que médecin. Et c'est vrai qu'on est en train de prendre conscience que c'est pas aussi simple que ça, et que en tout cas, le fait que ces médicaments ils aient plus du tout la même forme d'une fois sur l'autre, ça pose un vrai problème.
Oui, oui. Et donc, dans la loi de sécurité du médicament, il y a un article, non, c'était même avant d'ailleurs, qui permet aux génériqueurs de copier l'apparence du Princeps. Alors, je ne sais pas si c'est très fait, mais c'est vraiment important.
C'était pas possible avant.
Avant, c'était interdit. Il faut le faire parce que de toute façon, tout bêtement, on sait que un médicament tranquillisant entre guillemets, il vaut mieux qu'il soit bleu ou blanc que rouge. C'est con. Hein, mais, enfin, c'est pas con, mais c'est comme ça. Vous aviez une question avant de partir.
Excusez-moi, je précise non. Le princeps parce qu'on me demande, ce que c'est que le princeps. C'est la molécule, la spécialité d'origine qui va être copiée.
Oui, j'aurais voulu un petit rappel historique, voir comment historiquement il y a eu une connivence lucrative qui s'est créée dans les métiers de santé, et donc avec les laboratoires médicaux, et j'ai perdu ma question, mais voir comment ça s'est construit, c'est simplement un nouvel marketing en disant on va monter les prix dans les années 80, ou c'est historique, il y a une vague de fonds.
Je sais pas. Bon, la motivation lucrative chez les soignants, je pense qu'elle est vieille comme le monde. En tout cas, chez une partie des soignants, clairement, hein, pas tous, mais ça a toujours été là. Alors après, les firmes, elles ont changé de. Dans les années 70, on avait dans les 10 premières mondiales beaucoup de firmes européennes qui, en pratique, étaient des firmes qui avaient démarré à partir de petites boîtes créées par des médecins ou des pharmaciens. En Allemagne, c'était différent, c'était la chimie, mais c'était au départ, il y avait des soignants. Aujourd'hui, dans les 10 premières, il y a beaucoup de firmes aux États-Unis. Aux États-Unis, les firmes se sont construites comme du business dès le départ. Hein. C'était clair et net. Bon, donc il y a sûrement une culture un peu différente dans le sens où c'est plus pro-business. Alors, ce qui se passe. Il y a eu un gros changement dans les années 90, c'est que là, on a vu apparaître les premiers médicaments milliardaires. Donc, le premier, ça a été l'Azantac, que j'ai mentionné, là. Mais après, il y en a eu des dizaines. Hein. Alors, c'est dû au fait qu'on a eu la mondialisation vraiment achevée du marché pharmaceutique, c'est-à-dire les médicaments, ils étaient mis sur le marché dans les gros pays très rapidement, en même temps, avec des prix très élevés et beaucoup de patients parce qu'on était dans du chronique. Donc le marché du chronique, c'est ce qui rapporte le plus. Hein. Aujourd'hui, les firmes, elles ne cherchent plus d'antibiotiques parce que c'est une semaine, cinq jours, ça ne rapporte rien. Donc le chronique, c'est super. Voilà. Donc ça a fait exploser le marché pharmaceutique. Il augmentait chaque année de plus de 10%. Et les firmes, elles ont investi massivement en marketing. Donc visite médicale, tous les systèmes, elles ont arrosé la formation en continu, elles ont les congrès. Il y a eu des sous... plein de sous, partout, et ça, indéniablement, même si les gens qui reçoivent l'argent ne sont pas forcément conscients, ça crée des liens. Voilà, donc le connivence, il y a tout le spectre, hein, parce qu'il y a des naïfs, il y a des cyniques, il y a des hypocrites, il y a des compromis, il y a des corrompus, il y a toutes sortes de gens. Mais en tout cas, c'est bien agréable de bénéficier des largesses de firmes pharmaceutiques. Je pense que il faut être pas facile de résister parce que c'est facile d'avoir de l'argent et on est invité, on n'est pas invité à Pizza Hut quoi, quand on est invité par les firmes.
Oui, pour revenir à un niveau macroéconomique, pendant la campagne des présidentielles, une des candidates, Eva Joly, avait dans son programme consacré à la santé, aborder la question du prix du médicament. Et elle postulait, enfin, j'imagine que c'est des calculs qui avaient été faits par des membres de son équipe, que si un certain nombre de médicaments vendus en France étaient alignés sur les prix des mêmes médicaments vendus en Angleterre, il y avait une manière de récupérer des sommes d'argent assez considérables, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, à peu près du même niveau que le déficit de la branche maladie pour 2012. Est-ce que c'est une hypothèse crédible ?
Je ne sais pas... c'est extrêmement impossible en fait de comparer la France au Royaume-Uni. Ça, il y a tellement de choses différentes. Donc les médecins, par exemple, ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'en France. Ils prescrivent beaucoup moins de médicaments. Ils prescrivent beaucoup moins de médicaments récents. Donc c'est pour ça qu'ils prescrivent moins de médicaments chers. Donc prescrivent beaucoup moins en volume. Donc l'effet volume et l'effet structure sont très différents. Donc isoler seulement le facteur prix, c'est très artificiel en fait. Donc le calcul est probablement vrai et faux, quoi. C'est ça qui est un petit peu embêtant. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'en France, il y ait la possibilité de gagner 5 milliards sur la facture pharmaceutique. Je ne vois pas. Ça, je ne crois pas. Il faudrait empêcher les médecins spécialistes de prescrire des médicaments qui viennent de sortir. Quoi. Je ne vois pas qui va oser faire ça. Qui va oser prétendre vouloir le faire. Alors en plus, qui a le pouvoir là-dedans? Donc Daniel a dit qu'au comité économique des produits de santé, il y avait trois ministères dont la santé. La santé, ça pèse à rien. C'est-à-dire que le CEPS, il a son secrétariat au ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé ne pèse à rien. C'est-à-dire ça se décide à Bercy, les choses sérieuses. Je donne juste un exemple. Dans la loi Bertrand, il y avait le fait que les firmes pharmaceutiques allaient devoir déclarer toutes les sommes qu'elles donnaient à gauche et à droite, à tout le monde en fait, hein, associations de patients, les soignants, les hôpitaux, etc. Et Xavier Bertrand a répété plusieurs fois, au premier euro. Alors, son parti était contre, et finalement, ça n'est pas passé. Hein, mais il n'a pas pu l'écrire dans la loi, mais c'était son idée, il l'a dit, redit plusieurs fois. Et moi, je crois qu'il voulait le faire. Donc, mais le décret n'est pas sorti. Il n'a pas réussi à le faire sortir parce que... voilà. Donc, c'est tombé dans l'escarcelle au départ de Marisol Touraine. Au mois de juillet, il y a eu un communiqué de presse en disant « Ouh là là, mais ce que voulait faire... » Enfin, c'est de la démagogie. Ça disait à peu près ça. « Ce que voulait faire le ministre présidentiel de la démagogie, on va faire un truc réaliste. » Donc, nous, on a compris, réaliste, ça veut dire qu'on ne va pas trop embêter les gens. Bon. Donc on a commencé à faire un lobbying très fort. Moi, je suis allé voir le cabinet de Touraine, de Jean-Marc Ayrault. Enfin, j'ai vu plein de gens là-dessus. On les a lobbyés à mort. Mais l'Ordre des médecins aussi, qui a joué un rôle très positif en disant c'est une honte. Parce que donc on a été invité, l'Ordre des médecins, et prescrire à une réunion de travail où on a vu un texte, un projet de décret qui était vraiment hyper permissif. Donc on a dit qu'on n'était pas d'accord. Bon, la deuxième réunion, on a vu qu'il y avait des gens autour de la table qui étaient là, de Bercy, et la consigne, c'était « on n'emmerde pas les labos ». Et le projet de décret, c'était encore pire, quoi. C'était l'opacité totale. Et comme on les a lobbyés à mort, on a fait sortir des articles un peu partout, que l'Ordre des médecins s'en est mêlé, bon, le décret qui était déjà parti au Conseil d'État, il est revenu, le ministère de la Santé, et maintenant, elle a dit plusieurs fois, ça sera transparence totale. Voilà. Mais probablement, il y avait un effet Cahuzac là-dedans. Hein. C'est-à-dire, il y avait un ordre de Bercy, on n'emmerde pas les labos. Voilà. Donc là, c'est eux qui avaient... Et quand Bercy dit ça, c'était comme ça. Et il a fallu un lobbying d'enfer. Moi, je suis allé à l'Élysée, il y a un conseiller qui a dit, emmerdez-les, enfin, c'est des cons, allez-y, foncez, bon. Donc... mais s'il n'y avait pas eu ça, on aurait un décret Cahuzac, c'est-à-dire l'opacité. Ils ont échappé à un désastre, ce gouvernement.
Et encore, je pense que ça va être compliqué d'avoir une vraie visibilité sur les dons aux associations, enfin aux personnes morales, de la part des labos. Hein, tel que c'est fait, je ne sais pas où est-ce qu'il faudra aller pour avoir cette information pour le public.
Alors, c'est ça, mais en fait, ce qu'on a eu de mieux dans notre lobbying, c'est que cette histoire de... Ça s'appelait le Sunshine Act à la française, parce qu'Obama, il a mis en place, ça démarre cette année, donc ça fait plusieurs années qu'il avait travaillé, un décret de ce type-là, Sunshine, c'est-à-dire on fait la lumière sur les choses, et donc c'est déjà appliqué. Donc, même avant que ce soit obligatoire aux États-Unis, si vous allez sur le site d'Internet de Pfizer ou de Merck, qui sont des firme énorme, on a déjà tous les dons de ces firmes à tout le monde, y compris à moins de 10 dollars. Et donc, il y a des colonnes, et vous voyez, nourriture, symposium, voyage, etc. Donc, en fait, c'est absolument... Ces firmes, elles l'ont fait du jour au lendemain parce qu'elles l'ont dans leur comptabilité, tout simplement. Donc, elles ont foutu leur fichier sur Internet, et les firmes en France, ce sera aussi facile. C'est dans leur comptabilité. Donc, alors effectivement, la question, c'est où ce sera. Alors, oui, au départ, ça, dans le projet de décret, ça devait être, ça pouvait être chez chaque firme, y compris sous forme papier. Vous voyez, c'était un pratique. Il n'était pas prévu que ce soit sur leur site internet. Nous, ce qu'on demandait, c'est que ce soit sur un site unique. Voilà. Donc, alors, il nous avait dit oui, mais la Commission nationale informatique et liberté, elle n'est pas d'accord parce que ça va faire des fichiers sur les gens et puis ça empiète sur la vie privée. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller avec ça, mais en tout cas, la ministre, pour l'instant, dit que elle a dit plusieurs fois que ce serait sur un site unique.
Oui.
Alors, quand même, aux États-Unis, ils sont assez à cheval sur les libertés individuelles. Si on arrive à le savoir aux États-Unis, peut-être qu'en France, on peut y arriver aussi. Ouais, ça va.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une faible différence entre en termes de prix entre les princeps et les génériques. Non, c'est quand même important.
Je ne sais pas ce que vous dites, mais en tout cas, il est moins important que dans d'autres pays. Ça, c'est sûr. Je connais une bonne raison à ça, et il y en a sans doute de moins bonnes. Il y a une bonne raison, c'est que le fameux comité économique des produits de santé négocie avec les firmes de génériques le fait qu'elles proposent la gamme totale de génériques, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des génériques sur tous les dosages, par exemple, et sur tous les volumes de boîtes. Alors que les firmes génériques, elles, ce qui les intéresserait, ce serait de proposer le générique seulement sur la boîte qu'ils vendent le plus, et les autres, elles s'en foutent. Donc, ça, c'est donc dans le marchandage, la France accepterait d'avoir des prix un peu plus élevés de façon à ce que la firme produise toute la gamme, y compris des boîtes qui, elles, ont une toute petite marge, voire pas du tout de marge, parce que ça ne se vend pas trop. Quoi. Mais bon, ça peut se tenir. Hein.
Mais c'est pas handicap, finalement, faible taux des princeps, des par rapport aux princeps.
Bah, c'est sûr qu'on n'obtient pas. Autant d'économies que... Enfin, je pense que sur ce point-là, il va y avoir des modifications et probablement, dans les prochaines années, on va avoir des mesures pour accentuer le différentiel parce qu'on sent quand même que les génériques en France, ils sont, en comparaison aux autres pays européens, ils sont trop chers. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête.
Avant que notre président nous invite à mettre un terme à cette réunion, je voulais vous préciser, vous pouvez notamment consulter sur Internet l'audition de Pierre Chirac, de la revue Prescrire. Alors moi, j'en ai vu qu'une, celle devant le Sénat. Ça s'intitule... C'était...
Sur les dispositifs médicaux.
Ah, j'en ai vu une sur le Mediator aussi, non ?
Oui, mais c'est pour ça, il y en a deux. Oui,
il y en a deux.
Ouais, d'accord. Nous, c'est les dispositifs médicaux.
J'ajouterai aussi que toutes les conférences qui ont lieu dans le cadre d'ESPES sont enregistrées et sont accessibles sur le site internet de l'espace Mendès France. C'est pourquoi il est important de poser des questions dans le micro. Bien, on va arrêter ce soir. Merci à nos deux intervenants. On n'a pas encore le calendrier du deuxième semestre 2013. En tout cas, il y a deux conférences qui sont prévues. Une sera consacrée au thème de l'adolescence et une au thème du grand âge et de la santé.